With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Sans nuit. 100 nights. Ein Undernacht. Jacoban. Sans nuit, c'est beaucoup. C'est à peu près un trimestre de sommeil. Sans nuit, c'est votre batterie pour les 3 prochains mois. Sur ces 100 nuits, combien de Netflix and chill? Combien de dates Tinder qui finissent dans le beau drap? Combien de parties de Cuphead? Combien de petits déjeuners au lit? Et combien d'enfants conçus? C'est vrai ça, on ne pense pas souvent à la qualité de son matelas lorsqu'on fait des enfants. Ça me fait penser, Fibre, la qualité d'un matelas augmente-t-elle celle de tes orgasmes? Sans nuit, c'est aussi le temps que Casper vous donne pour que vous testiez leur matelas. Si vous n'êtes pas satisfait, il passe le récupérer, vous rembourse et l'offre à des associations. En plus, avec le code SPECTRE, nous vous offrons 55 euros de réduction sur un matelas Casper. Pensez à vos orgasmes. SPECTRE sur Casper.fr.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans le Studio 404 du mois d'octobre. Ok Google, achète un matelas Casper.
Et là, c'est le bug.
Voilà, tu lui as pas donné le code.
Qu'est-ce que ça veut dire, Fibre? J'ai voulu acheter un matelas Casper avec OK Google et elle vient de bugger immédiatement.
Alors déjà, ça veut dire qu'on a une nouvelle chroniqueuse, c'est notre petite enceinte Google. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, oui. Il a monté le son.
Oui, bah, et en fait, comme je l'ai dit à la dernière émission qu'on a fait en live à Publicis, cette chose fait tout sauf acheter ce que je veux. Voilà. Donc c'est...
Moi qui voulais un matelas Casper. J'allais payer plein pot. Comment ça va, cher chroniqueur? Comment ça va? Donc, Fibre.
Moi, ça va très bien.
Oui.
J'ai pas d'actualité.
Si, tu fais un régime.
Ah oui, bien sûr. Bah, j'ai perdu mon 10e kilo et j'ai commencé aussi la méditation en pleine conscience.
Voilà. J'ai vu ça
Il
sur
va
Snapchat.
Finir sur un fixie.
Il va finir
et surtout dans un incroyable. Il dira, les gars, le vélo à pignon fixe, c'est le futur. Comme pour chaque truc qu'il découvre 6 ans après tout le monde.
Non, mais en tout cas, c'est bien parce que tu as réussi à gamifier, à chiffrer, à dataiser tout ce que tu manges.
Oui, et en fait, je découvre avec stupéfaction que la nature est chiffrée. Et la nature est déjà gamifiée. Donc, en fait, l'univers est un jeu dont on redécouvre les règles.
Oh, c'est beau. Oh.
Bienvenue sur Trajectoire. Alors,
la nature est déjà gamifiée, c'est déjà un bon gros.
J'ai une reco culturelle.
Alors,
je ne sais pas si c'est maintenant.
Mais
ou
vas-y.
Alors, j'ai été bouleversé par la vidéo de Enjoy Phoenix sur son poids.
Oui.
Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de l'Internet de ces 20 dernières années, c'est cette vidéo, parce que quand on a une influenceuse qui fait un truc aussi sain et aussi bon, c'est fantastique. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, c'est fantastique.
Ouais, vidéo très forte. Donc à mettre dans une capsule et à déterrer dans...
Dans Forever, ça marchera toujours.
Dans c'est Forever, ça marchera toujours.
C'est Fibre est donc humain.
Il essaie de nous faire croire.
Ouais.
C'est la méditation.
C'est une émulation.
Comme Google Home, il s'améliore à chaque fois. À chaque fois, l'illusion devient toujours plus étrange. À côté de toi, Fibre, il y a Mélissa. Comment ça va, Mélissa?
Ça va bien. Pardon, je suis en train de saturer mon micro.
Mélissa.
Gislain pleure. Mélissa. J'ai une petite actu.
Une petite
légère, subtile.
Une grande actu, pardon. Oui, je vais partir de Slate. Donc, fini le.
Bon,
les...
Ça, on s'en fout, voilà. Ça, c'est la petite actu. Mais la vraie actu.
Pour attention. Lancer un studio de podcast.
Mais ce qui veut dire que.
Ce qui veut dire que donc je quitte qualité, mais. Oh je reste dans 404.
Ah
on a les. Par Guy de Graine.
Oh.
Le nom du studio de podcast qui va être
pas
créé.
Encore.
Ah non, ça suffit maintenant.
Teasing.
Ça va être un truc avec un anglicisme, je vous le dis déjà direct.
Ah non, pas du tout. Ah, tu penses un anglicisme
bah, bien
pour
sûr.
Mélissa
bah, bien sûr. Slate.
Non. Je crois que c'est déjà pris.
Alors tous les chroniqueurs ne considèrent pas ça comme une trahison.
Il aurait pu commencer par presque tous les chroniqueurs et faire un reveal après.
Sauf la personne qui vient de dire cette
phrase. Non, j'ai rien dit moi.
Mais nous serons amis et nous coopérerons, chers amis.
Parce que enfin, nous coopérons et nous aimons tant que l'industrie sera assez grande pour tout le monde. Ensuite.
Non, le marché est naissant et tout d'un coup, on est déjà.
Vous connaissez les règles du capitalisme.
Le battle royale du podcast.
Exactement. Il y a un studio de podcast de
sache
trop dans cette pièce.
Sache en tout cas que tu resteras pour moi tout le temps dans Slate. Parce que j'en ai besoin comme
il sinon, bah voilà, sinon il pourrait pas faire ses chroniques.
Ah mais voilà.
Mais
c'est vrai, du coup, comment on fait pour balancer des piques méchantes et gratuites?
Et bah, absolument, en écoutant ses futurs podcasts.
Il faut imiter Charlotte Pudlowski.
Bonjour Charlotte.
Oui, c'est avec Charlotte Pudlowski et Alexandre Moniol.
Oui, voilà. Donc, Charlotte Pudlowski et Alexandre Moniol, qui est un peu les piliers de transfert, qui est un peu le programme de podcast de Slate. Et donc là, hop.
De nouvelles histoires à venir.
Donc vous allez produire transfert pour Slate?
Oui, c'est notre premier client.
Ah, beau gosse en plus, d'accord,
parce que vous avez des clients, quoi.
Ah, on donc il y a zéro côté et nous aussi communauté on a des clients, à maintenant.
Non, mais c'est bon, on va les ranger de l'autre côté de la barrière, avec Boxon, avec Nouvelles Écoutes, avec Binge, les gens ambitieux, quoi. Nous, voilà.
Ah, ils veulent donc que ça marche, merde. Ouais. On n'est pas habitués.
On va être les Radio Kawa de elle.
Alors, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne comparaison.
Vraiment pas.
Dites-moi que ça va s'appeler Podcast Théo. Ah non, ça existe déjà.
Ça existe déjà.
C'est vrai.
Nouveau podcast.
Le nouveau podcast. Ah, c'est vrai, c'est très bien nouveau.
Balado diffusion, tu sais, ils vont faire un truc genre un petit peu rétro, mais assumé, tu vois.
Ouais.
Bonjour.
On va pas s'appeler Marcel.
Donne-nous un petit indice, Mélissa. Tu t'en vas, laisse-nous un petit cadeau au moins.
Ouais, c'est vrai ça.
Donne-nous un os à ronger.
Vous entendrez tout en exclusivité.
Ah bah,
tout en exclusivité sur l'annonce publique, quoi.
Bon, je vous ai mis dans la mailing list.
Vous serez dans les alpha testeurs de cette magnifique entreprise.
Ah, ok, très bien. Okay, donc pour les auditeurs qui ne savent pas, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on bosse avec Mélissa. Elle nous a jamais révélé un secret en off. Rien, c'est vrai. Rien.
Sur ma vie privée, peut-être.
Ça se trouve, elle est enceinte de 8 mois, on le sait pas, quoi.
Ouais. Mais elle nous a jamais rien révélé, quoi.
Genre. C'est vrai que c'est une tombe, hein. Là-dessus, on peut pas.
Ah, on a déménagé avec cette. Ah, vous allez où? Je peux pas le dire. Tu fais chier. Vous le saurez au moment où on fera une déclaration officielle.
Ceci est l'intro de 404 la plus longue de l'histoire. Bienvenue dans Studio 404.
On a le temps, nous, on n'est pas prestataire de qui que ce soit, tu vois.
Mais on fait des pubs pour Casper.
C'est ça l'indépendance.
Il faut bien vivre, madame.
Oui. On a un modèle
mais Casper, qui est quand même la meilleure marque de matelas,
objectivement,
qui te permet de baiser pendant un trimestre gratuitement,
tout à fait,
et qui vient ensuite chercher ton matelas souillé.
C'est combien ça. De matelas souillé
pour le donner à des sans-abri.
Je pense qu'ils n'ont pas saisi le marché français. Ça va backfire cette histoire.
Ce qu'il faudrait, c'est mettre des matelas Casper dans des Airbnb. Je vois un truc.
Ça, c'est pas con, n'empêche.
Oh là là. Bon, Sylvain, comment ça va?
Ça va super.
Petite
bien.
Actu aussi, Sylvain.
Légère, actu. Subtile.
Petite actu, je suis marié.
Ouais. Oh là là. Bravo.
Je fais un bisou à ma femme d'ailleurs, si elle m'écoute.
C'est très 1.0 le mariage quand même.
C'est hyper 1.0, mais avec quelques petits twists pour le rendre un peu 2.0, genre tu live stream ton mariage sur Facebook.
Il y avait quelques youtubeurs.
Tu fais un mariage participatif, collaboratif.
Il y avait qui a gamifié quand même le repas. Les auditeurs vont rigoler, genre ah, quelle vanne rigolote. Non, c'est vrai. Sylvain et sa femme ont réussi à gamifier le repas en faisant un concours d'entrée et toutes les tables. Non, il a ubérisé. Qu'est-ce qu'il a fait?
J'ai ubérisé le traiteur.
Il a ubérisé le traiteur parce que tous les invités sont devenus le traiteur et ont fait la bouffe eux-mêmes. Et après, il a gamifié tout ça pour avoir un concours. Magnifique.
Pour c'était au final, pour n'empêcher pas avoir de résultats, en plus.
Ouais, bah tout le monde a gagné, quoi. C'était...
Ouais, bah c'est nul. Ouais, je suis déçu. Non,
il y avait quelques youtubeurs chez les invités, en plus. Donc,
Des youtubeurs cuisine, en plus.
Ouais. Youtubeurs cuisine.
Fibre, t'as distribué ta carte de visite à ce mariage?
Non, j'étais sous la tente. Mais alors, si, j'étais le seul à avoir joué le jeu parce qu'on dormait sous la tente.
Il envoyait des cartes partout.
J'ai déménagé récemment. L'un des seuls trucs qui me restait, c'était un tas de 50 cartes de visite de fibre optique d'une soirée 404. Je les ai emmenées, franchement, je les ai pas jetées.
Non, mais en vrai, il y avait quelqu'un de Publicis là-bas qui nous a dit, si vous voulez refaire des lives à Publicis, venez quand vous voulez. Je ne t'ai pas oublié, Julie. Voilà.
Elle nous écoute.
On lui fait un bisou. C'est vrai que ce soir, nous sommes au chaud, installés dans le doux loft de Ghislaine et Andy.
C'est plus qu'un loft, c'est un cocon.
On est pas mal.
Bon, et petite petite recommandation.
Ah oui, c'est vrai.
Recommandation techno.
Moi aussi, j'en avais.
Recommandation techno, j'ai acheté un drone. Voilà, on est en 2017. J'ai acheté un drone en 2017.
Attends, mais t'as acheté un drone après ton mariage, alors que c'était le moment de faire des shoots.
Ah ouais, mais en fait, je voulais pas.
Faut faire un mariage.
Je peux pas critiquer Casinestat à longueur de journée et ramener un drone à mon mariage. Tu vois. À un moment donné, faut que
c'est quoi comme marque sans indiscrétion?
C'est un DJI Spark.
Ah, la marque de l'État islamique. Très bonne marque. Très bonne marque.
De quoi?
Ah bah, c'est Field Testé.
C'est la marque de Daesh.
C'est la marque de l'État islamique.
C'est la marque
c'est ce qu'ils utilisent.
Ouais, ouais. Mais ce qui prouve que c'est efficace.
Ouais, c'est efficace, ça marche. Hein.
Si tu avais fait un repérage d'une place forte avant de la prendre.
Tu es donc fiché S depuis que tu as acheté ce
truc. Ça tombe bien puisque je suis en train de construire une maison avec du mortier Lafarge en ce moment.
Ah bah parfait. Voilà.
Et il est barbu aussi. Hein.
Je suis barbu.
En plus.
Ah, moustachu. Et ouais, c'est cool, c'est hyper cool.
Ouais.
À chaque fois que tu. Je sais pas, c'est très, très simple d'utilisation et t'as l'impression de faire des shots de cinéma à chaque fois que tu décolles, quoi. C'est impressionnant de facilité.
Ouais. C'est vrai que c'est bien. Ça coûte cher encore ou pas?
Bah non, il coûte $500.
Ça baisse. Ça baisse, ouais. Ça baisse.
C'est la moitié du Mavic Pro. Il est deux fois plus petit, c'est cool. Il rentre dans un sac à dos.
Très bien, c'était l'instant hardware. Je reviens à Mélissa du coup avant de passer à Daz. C'était quoi ta petite reco, Mélissa?
Une série Netflix.
Ah, oui. Pour changer.
Ça s'appelle Mindhunter.
Ah oui, alors que je sais
la
pas tout le monde en parle
de
depuis quelques jours.
David Fincher.
David Fincher, oui, tout le monde m'en
donc
parle.
Donc un mini-film de David Fincher à chaque épisode. 10 épisodes sur.
Dis rien. Je veux même pas savoir de quoi ça parle.
Des profileurs.
Il faut y aller ou il faut pas y aller?
Il faut totalement y aller.
Ouais, tout le monde m'a dit ça.
Enfin, non, pas tout le monde.
Mindhunter, c'est un truc sur la cuisine, ça m'aurait fait chier. C'est vrai qu'on s'y attend un peu vu le nom. Mais bon. D'accord. Donc ça vaut la peine.
Binger ou pas binger?
Moi, j'ai pas réussi, mais ouais, j'étais bien parti pour binger, j'ai pas eu le temps. Mais ouais,
en fait, t'as pas le choix sur Netflix, mais ça, vous le saurez plus tard.
Le mec qui tisse sa chronique pifée.
Daz, comment ça va?
Hey, salut, ça va? Moi, ça va super bien.
Bon, qu'est-ce qui se passe, Daz? Est-ce que tu as une actu aussi dramatique que tes trois compères?
Alors, absolument pas, je ne me suis pas marié, désolé. Je ne quitte pas Studio 404 ou Qualité parce que j'ai un honneur.
T'as quitté Elite quand même.
Je ne travaille pas chez Slate, non, je vais y revenir sur Elite. Si petite actu que j'ai passée ce jour, j'ai à présent 5500 followers. Et je sais très bien qu'en disant ça, je vais repartir à 2000 dès que les mecs vont écouter et vont se désabonner. Mais voilà, c'est pour dire
grâce à du gros hacking.
L'influence.
Grâce à du gros hacking au long terme. Du long hacking. Hein,
ça fait du long trolling.
Absolument pas. Zéro.
Vous vous rendez compte de Daz qui fait la chasse aux followers? Le mec,
non,
il est
non, mais voilà,
il est complètement passé de l'autre côté de la barrière.
Non, hein. C'était une étape que je m'étais dit, tiens, c'est sympa quand même, 5500.
Non, mais t'as fait ton tweet sur le père Foura, là, de, qui, enfin, tu sais, ton.
Ah oui, ton 1500.
Le père Foura qui habite, ouais,
le professeur Layton. Ouais.
Et là, t'as fait le buzz.
J'ai fait un méga buzz.
Est-ce que t'as été interviewé dans une émission de télé ensuite? Genre, est-ce que vous pouvez relire le tweet à haute voix, s'il vous plaît? Toujours, des trucs un peu intéressants, quoi. Vous avez fait 2000 retweets, est-ce que vous pouvez nous relire le tweet à haute voix? Incroyable.
Là, je crois que c'était dans les 10 000 retweets, hein, c'était un truc.
Non, c'était plus autour de 4-5, je crois. Ouais. Mais non, c'est pas mal.
T'as vu Fibre, il se transforme en toi, Daz. Maintenant, il fait la chasse au top tweet, il regarde ses followers tous les jours.
Dans les toutes premières émissions de Studio 404, il y avait beaucoup de tweet game de la part de Fibre qui était vraiment très très fort dedans. Et Daz qui était là, ouais, mais moi j'ai eu 100 followers, je vois pas de quoi vous parler, les gars.
Du coup, Daz il se transforme un peu en Fibre, tu vois.
Ouais, Daz est un proto-Fibre.
Fibre, il se transforme un peu en Sylvain parce qu'il devient hipster à manger léger. Mélissa, elle devient Sylvain parce qu'elle est freelance, elle se casse. Et Sylvain devient un peu Daz, il se mac. C'est pas mal ça, non?
Putain, ouais.
Beau gosse.
On a tourné.
Il a été plus loin que moi. Et alors, côté reco, puisque tu vas me le demander dans un instant.
Et c'est quoi ta reco, Daz?
Alors, ma reco, je ne sais plus ce que c'est.
Ah, oh, le chien. Ah, il fait chier.
Elite Dangerous.
Non, même pas. Non.
PIBG.
Non, même pas. Peut-être Cuphead. Ouais, Cuphead, c'est sympa.
Ouais, Cuphead, c'est incroyable.
Cuphead, c'est sympa. C'est dur, mais c'est sympa.
C'est dur. Hein.
Ouais. Oh, mais comme c'est beau, du coup, ça rattrape le fait que ça soit dur. Mm-hmm. Bon, oui, c'est une
on fera un magnifique débat sur la difficulté dans les vidéos. un truc pas sans fin du tout.
Hashtag Jean Z.
Bon, bah voilà, on vient de faire l'intro de 404.
Dommage ratage.
On vient de faire un intro 404, la plus longue de l'histoire de 404. On vous rappelle. Code Spectre. 55€. 3 mois. 6 sur 6. C'est tout ce que vous devez retenir. Allez, on attaque tout de suite d'ailleurs la première chronique avec Monsieur Fibre Tigre.
Sujet numéro 1.
OK Google trouve des arguments à la gloire de OK Google.
On attend impatiemment cette chronique Fibre.
Pris sous un certain angle, la fin de 1984 est plutôt optimiste et sur le thème de l'amour. En effet, le héros sort d'un centre de lavage de cerveau et déclare sincèrement de tout son cœur aimer Big Brother. Eh bien, c'est un peu le même sentiment que je ressens quand je vous dis que j'aime mon Google Home. Dire qu'il y a 50 ans on craignait que l'œil de Moscou nous espionne et maintenant c'est l'oreille de Palo Alto, oui venant de ce pays qui menace d'une troisième guerre mondiale, qui est pour la distribution illimitée des armes et qui s'est retiré des accords de Paris et de l'UNESCO. Oui, donc l'oreille de Palo Alto qu'on supplie de nous écouter et j'ai même payé pour ça. J'ai payé 150€.
C'est cher.
Donc pour 150€, qu'est-ce qu'on a acheté mon cher Pierre Belmar? Eh bien, nous avons une magnifique enceinte dotée d'un micro qui se déclenche quand on dit « OK Google ». Tout ce que vous dites est envoyé à Palo Alto, où des IA essayent de comprendre ces baragouinages avant d'en envoyer une copie au FBI, où des analystes se disent « Quoi ? Sylvain Palais écoute encore du Gentle ?»
Je ne comprends pas.
Voilà. Donc on vous rappelle, l'enceinte Google Home de Fibre est allumée depuis le début de la soirée.
Voilà.
Et certains appareils Android sont aussi allumés depuis le début de la soirée. Tout le monde réagit n'importe comment.
Voilà. Et donc, on peut tweeter en direct en faisant OK Google tweet.
Les tweets bizarres de votre mardi soir, on est mardi.
Ouais. Ouais.
Et ben ça vient de là.
Temps d'installation 10 minutes. J'ai mis 15 minutes tout à l'heure. Désolé Ghislain, Ghislain est témoin parce que j'avais oublié de brancher mon Bluetooth. Mais bon, c'est 10 minutes d'installation. On le branche sur l'électricité. On configure le Home avec une appli. Chez moi, pas mal de trucs sont sur Google Home, donc ma télé, via le Chromecast, donc 40 euros. Mes ampoules, 30 euros par ampoule. Mon Netflix, mon Spotify, Twitter aussi. Est-ce que c'est bien ? Moi, j'adore. Je ne peux pas m'en passer. Le gap entre la télécommande et la voix est aussi grand que, souvenez-vous, pour les plus vieux d'entre vous, le gap entre la télécommande et le fait de se lever pour changer la télé en appuyant sur les boutons sur la télé, quoi. Donc, quelques petites tranches de ma vie sur le Google Home. Je fais la compta de qualité. Facture devant moi, les doigts sur le clavier. OK Google, mets ma playlist comptabilité.
Attends.
OK, voici votre playlist Spotify intitulée comptabilité.
La tristesse.
C'est quoi cette musique pour la compta?
Ça s'appelle facture, facture, facture. C'est bills, bills, bills.
Oh mon dieu.
C'est hyper cogip, j'adore.
I've got bills. I've got to pay. Bon, voilà.
C'est une chanson en boucle comme ça, tu sais, pendant 4
ans. Non, c'est que des chansons qui parlent de factures.
T'as celle de Destiny's Child aussi,
Bill. Quoi?
T'as celle de Destiny's Child?
Oui, voilà, j'ai Destiny's Child, il y a plein de trucs un peu cool. Donc, on va la stopper, ouais. Non, attends, justement, on va laisser un petit peu, tu vas voir, il va se passer un truc.
On va se faire striker déjà.
Ok Google, alors, ok Google, 20% de 179. Non mais il y a juste là qui touche, mais touche pas. OK Google. 20% de 179.
La réponse est 35,8.
OK Google. 146,56 moins 25,73.
La réponse est 121,56.
Bon, j'arrête parce que quand même, j'ai une troisième main. J'ai une troisième main qui tape plus vite et je n'ai même pas à regarder le résultat sur une calculette. Autre séquence, je me prépare à manger. OK Google, mets YouTube.
Bien sûr, voici des vidéos YouTube recommandées pour vous sur l'énorme télé.
Bon, là on est chez Ghislain, elle met YouTube sur ma télé, il faudra que je l'éteigne ensuite. Donc je vois que j'ai des pommes de terre. OK Google, pause. OK Google, combien de calories dans une pomme de terre ?
Il y a 77 calories dans 100 grammes de pommes de terre crues.
Bon, bah, je vais pouvoir en manger parce que j'ai fait attention à mon poids. OK Google, quelle est la recette des rostis ?
Le site atelierdeschefs.fr contient l'information suivante. Éplucher les pommes de terre et les râper à la mandoline, puis les mélanger avec...
OK Google, les oignons. Plus fort, je suis dans la cuisine. Et ainsi de suite. Donc,
je ne sais pas comment vous.
D'accord. Le son était déjà au max. je ne regarde plus d'écran et j'utilise mes deux mains pour éplucher des pommes de terre. En fait, en tout cas, vous voyez que le test, il est en live. Mon alarme Google sonne. OK, Google, allume la lumière de la chambre.
Compris, j'allume la lumière, mais white lamp.
OK, Google, qu'est-ce que j'ai dans mon planning aujourd'hui ?
Va te faire foutre, je ne veux pas te répondre.
Vous avez bien trouvé à ce sujet dans votre agenda.
Et oui, dans la fin de la journée. OK Google, quelles sont les nouvelles ?
Voici les dernières actualités.
OK.
Ça a passé ? Bon, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas...
C'est rien passé en fait. Hein.
Non, mais voilà. C'est
journée à vide.
Mais en tout cas, je n'ai pas encore ouvert les yeux quand toutes ces choses se sont passées. Chez moi, ça marche. Donc voici des fonctionnalités très basiques, hein, c'est ce qu'il y a dans le manuel de base de Google Home et avec IFTTT que Sylvain existe, que Sylvain utilise, ben on peut faire beaucoup plus, comme par exemple tweeter. Je suis en stream, OK Google tweet, encore dans le top 10.
OK, je le tweet.
Voilà. Là j'ai configuré pour sa tweet sur le compte de 404, donc vous pourrez tweeter ce soir si vous voulez. Donc quand j'utilise Google Home, voici ce que je ne fais pas. Je ne prends pas mon téléphone dans ma poche. Je ne le regarde pas. Je ne le déverrouille pas. Je ne lance pas un navigateur. Je ne tape pas ma requête. Je ne recherche pas l'information. Je peux me consacrer à regarder la magnifique rive gauche de Paris par la fenêtre.
Ce que Google Home ne fait pas encore, il ne fait pas les courses. Voilà, on ne peut pas acheter un matelas Casper encore avec. Mais ça ne saurait tarder. Je suis certain que Google sera ravi de nous faire acheter des choses. Pour tout le reste, je suis American limité Express. Par mon imagination. Et pour cela, va vous dire Daz ou ma petite amie, tu as vendu ton âme. Google a une oreille chez toi et entend tout. Eh bien, c'est pas idiot de dire ça.
C'est plus ta meuf qui dit ça comme ça, avec cette voix.
Oui, tu as vendu ton âme, tu le dis aussi, toi. Hein. Donc, c'est pas idiot de dire ça. Parce que la dernière version du Google Home, le mini, bah, ça date d'il y a quelques jours, il avait une faille qui faisait qu'il était toujours à l'écoute d'instructions.
Oh, c'était une faille.
C'était un petit bug.
On va le corriger, petite note.
Mais même, attendez, poussons le bouchon un peu plus loin. Google pourrait nous mentir, comme n'importe quelle société capitaliste. Il pourrait nous espionner 24/7. Ou même, un pirate pourrait nous entendre à travers le Home. Pour ma part, je considère que ce même pirate pourrait aussi me voir à travers mes webcams, j'en ai trois à la maison, ou à travers celle de mon smartphone ou de ma tablette. Et dans la foulée, prendre toutes mes infos, c'est-à-dire toute ma vie que je stocke sur ces mêmes supports. En gros, s'il y a espionnage, il peut être fait par beaucoup de portes qui sont déjà chez nous tous, et je ne pense pas que Google Home soit la plus grande. Comme le héros de 1984, j'ai été converti. J'aime Big Brother. Et d'ailleurs, quelle est la prochaine étape ? Google parle de traquer la position du regard, les expressions du visage. Notez que Snapchat, à but récréatif, traque très bien les sourires. Et pourquoi pas, allons plus loin, pourquoi pas lire dans nos pensées ? Est-ce que la télécommande du futur marchera à la pensée ? C'est là qu'on a un obstacle culturel que je peux vous partager parce que je le vis un petit peu. Moi, j'y crois pas trop.
Ah bon ?
Parce que parfois, et vous verrez, vous l'avez vu un petit peu ce soir, on a du mal à formuler de vive voix nos intentions. Nous avons une éducation du bouton. Nous allumons les lumières à la main par interrupteur sans y penser, c'est dans la moelle épinière. C'est assimilé par notre corps ou c'est simplement que plisser les yeux quand il y a trop de soleil. Pour utiliser les lampes chez moi, que j'ai donc mis, je ne me souviens plus si elle est encore allumée ou pas là, mais j'ai dû désapprendre l'interrupteur parce que j'ai le réflexe de l'interrupteur et réapprendre la voix. Donc c'est pratique, mais il y a quand même on doit oublier les habitudes qui sont quand même aussi pratiques. Mais bon. De même, j'ai l'impression que ma pensée aujourd'hui, elle va à la vitesse de frappe de mon clavier. C'est-à-dire que donner des ordres précis, bien formulés, intelligiblement, du premier coup, ou faire des tweets parfaits à la voix, moi, je peux pas. Encore, en tout cas, je sais même pas si j'y arriverai un jour. Ce qu'il faudrait, alors je vais encore plus loin, c'est une intelligence artificielle prédictive qui comprend à peu près tout ce que vous voulez faire et qui le fait. Mais alors, est-ce que ce sera toujours vous aux commandes ?
Monsieur Fibre Tigre, VRP en chef du Google Home.
Oui, converti, et j'aime beaucoup, et je ne l'ai pas eu gratos.
Donc Fibre remplace Sylvain dans le rôle exactement. Du VRP de Google.
Exactement.
Fait. Donc, c'est chaise tournante entre chroniqueurs ne s'arrête jamais. Donc Fibre Tigre, on l'a entendu, hyper enthousiaste sur le Google Home. Ça fait déjà 2-3 numéros de 404 que tu nous en parles. Là, tu nous l'as ramené, tu nous as fait le test, tu nous as fait une chronique un peu plus construite. Donc toi, tu as deux choses. Comme Sylvain dans ses plus grandes heures, tu acceptes totalement l'entrée d'une compagnie dans ta vie privée pour les bénéfices que ça en rapporte. Et en plus, ton petit côté curieux aime. Et deux, tu adores donc ce côté disparition de l'objet. Et tes mains sont libres, tes yeux sont libres.
L'exemple de la compta, il est vraiment super parce que, par exemple, quand je veux faire une opération, alors c'est un peu rébarbatif, une opération, c'est pas très, très glamour, mais
je
effectivement.
Tu fais des Excel super bien, Fib, je suis hyper déçu.
Non, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai un assistant, je lui dis l'opération, je n'ai même pas à regarder, c'est-à-dire je suis encore les yeux fixés sur les comptes à la facture. Je trouve que c'est fantastique et si ça s'étend à d'autres choses, fatalement ça va s'étendre à d'autres choses, c'est vraiment fantastique. Voilà.
Bon, alors Sylvain, toi, qui est censé être le Google enthousiaste en chef, qu'est-ce que tu penses de cette chronique de Fibre?
Moi, je suis tiraillé avec le Google.
Ah ouais, t'es tiraillé?
Je suis vraiment, vraiment tiraillé. Parce pourquoi que l'objet me fascine, me rend très curieux, m'excite énormément pour toutes les possibilités qu'il offre. Ouais. Je suis un gros utilisateur de l'assistant déjà sur le smartphone. Mais effectivement, le fait d'avoir un micro chez toi qui est toujours à l'écoute du trigger qui va le déclencher, ça me fait un peu flipper, même si je sais que c'est pas raisonnable en fait. La raison,
comment ça, c'est pas raisonnable.
La raison voudrait que j'ai peur de tout à ce moment-là.
Oui.
Que le Google Home, comme tu le dis, c'est pas la plus grande porte qu'il y a chez moi pour que les gens puissent s'introduire. Ils ont déjà ma position. Enfin, s'ils voulaient me prendre les données,
webcams,
et l'utiliser.
Surtout, qui met du scotch sur ses webcams? Vous mettez du scotch?
De plus en plus de gens le font.
Il y en a qui le font, mais
alors,
pas
perso, j'ai pas de webcam.
Recommandé par Snowden de le faire.
Mais t'as une webcam sur ton téléphone?
Oui.
Et mon téléphone, je suis pas H24 dessus, donc au pire, il filme le plafond si je me fais hacker.
C'est bien quand Daz, il y a toujours les bonnes réponses. Non, mais le micro de ton téléphone.
Ah, le micro, c'est vrai. Ouais,
t'as pas mis de scotch.
Mais donc Sylvain, t'es un peu tiré. Ouais. Tu atteins les limites du Sylvain jeune enthousiaste et tu es en train d'arriver à l'entrée du Sylvain vieux con.
La maturité.
Et quand même, bon.
Non, en fait, je vois vraiment concrètement que ça ne devrait pas me faire plus peur qu'autre chose.
Ouais.
Mais il y a un blocage qui fait que je sais pas, ça ressemble vraiment trop à un appareil d'espionnage pour que je sois totalement dedans. Mais j'ai le projet d'en fabriquer un avec un Raspberry Pi et voir comment c'est foutu à l'intérieur et comment moi je l'installe avec la partie open source de Google.
Il va y avoir des Linuxiens du.
Il y a un gros kit tout prêt à l'emploi pour le faire qui a l'air hyper simple que j'ai commandé. Et
puis on a été contacté en plus par.
Par un Calitos.
Un Calitos qui fait ça aussi dans son travail.
D'accord, ok.
Moi je vais le faire, mais via ce biais-là d'abord. Mais ça reste Google puisque c'est Google qui donne son code.
D'accord.
Mais
ah oui. Donc il y a rien qui change.
Non, il y a rien qui change.
Il a fait lui-même.
À part le fait que voilà, tu sais ce qu'il y a dedans et tu sais comment ça fonctionne. Tu vois, t'as la compréhension plus de la mécanique.
Comme disait Fibre, tu envoies quand même toutes tes données à Palo Alto.
Ça je le fais déjà du coup.
Oui, d'accord. Mountain View.
C'est vous parce que toi, t'auras créé ta propre bombe pour te faire sauter, tandis que moi, j'aurais juste acheté.
C'est vrai.
Donc il y a un côté vraiment.
Mais d'ailleurs, les données, je fact-check rapidement ta chronique, mais les données ne sont pas envoyées à Palo Alto, mais à Dublin, puisque la loi européenne demande
parce que c'est là où on paye le moins d'impôts en Europe.
Voilà. Les lois européennes demandent que les données des Européens
c'est le Palo Alto européen, tout le monde le sait.
Bien sûr.
Voilà.
Mélissa, qu'est-ce que tu en penses de ce Google Home, enfin en général des assistants vocaux, puisqu'il y a Siri, il y a Alexa, il y a Bixby, il y a Cortana.
Bixby. Allons.
Bixby.
Allons.
Bixby.
Samsung.
Bixby.
Donc là tu rigoles déjà.
Non mais Bixby c'est la solution des créateurs de Siri.
Ouais. Malheureusement, c'est brandé Samsung.
Bon, bref. Mélissa.
Alors, au-delà de tous les doutes préalablement mentionnés par Sylvain, que je partage,
oui.
Il y a un truc très intéressant, c'est qu'en fait, moi, j'ai été sur Internet beaucoup en écrivant.
Oui.
Et parfois, j'aimerais vraiment mieux parler.
Oui.
Et je me dis que si j'avais ça, là, c'est au stade embryonnaire,
oui.
Mais que c'est un vrai exercice sur la parole. Et que c'est vraiment... Je pense qu'il faudrait vraiment que je m'oblige à faire ça, parce que je pense que de fait, tu penses, tu argumentes, tu construis ta pensée pour parler, et c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié de faire.
Alors, point très intéressant de Mélissa, du coup, c'est vrai que le net tel qu'on le connaît, alors sauf Daz qui évidemment lève les yeux au ciel, parce que Daz va faire payer à Mélissa pendant des mois son départ de qualité, mais c'est marrant parce que Mélissa le dit, on a, avec les claviers et les écrans, on a appris à s'exprimer par l'écrit, et donc on a changé notre manière d'écrire. Est-ce que si notre entrée, c'est la voix, on va changer notre manière de parler aussi ? Ça peut être trop intéressant.
Fibre en a parlé, on est éduqué à l'interface manuelle, celle des doigts et des mains. Et celle de la voix, elle est difficile à apprendre, en fait. Et ouais. Effectivement, quand tu proposes des requêtes à Google via la voix, au début, tu galères parce que tu trébuches sur un mot, tu oublies la fin de ta phrase, tu sais plus exactement ce que tu voulais dire. C'est pas encore assez spontané.
Donc, c'est comme si tu tapais à deux doigts au clavier, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Là, genre, un...
Voilà. C'est un peu les cours de théâtre où on apprend à parler hyper distinctement, tu sais, à bien ouvrir ta voix.
Ah oui, c'est
vrai,
c'est une belle analogie. Et petit à petit, t'as le pouce qui commence à appuyer sur la touche espace de lui-même. C'est
exactement ça. Ça nous oblige à avoir une pensée précise parce qu'on peut dire, vas-y, mets ça. Et nous, pour nous, on sait que c'est du son.
Oui.
Mais en fait, il faut lui dire, je veux écouter ça ou je veux regarder ça. Il faut être légèrement précis.
Mais tout comme aujourd'hui, quand on tape une requête dans Google, on n'est pas genre, comment je vais créer ma requête? On la tape. C'est devenu naturel.
Ouais, c'est devenu naturel, mais ça s'est appris aussi, ouais.
Ah oui, donc ça c'est intéressant, ouais. Le fait que ça a peut-être changé notre manière de nous exprimer.
Nous qui travaillons dans le son.
Et oui.
Utilisons Google.
Enfin, nous on travaille pas parce qu'on est des amateurs. C'est toi qui vas travailler, mais ça, parce que.
Qui a fait une pub Casper au début de ce podcast ?
Il faut voir aussi, puisqu'on creuse un peu le sujet, c'est qu'aujourd'hui quand on parle avec un moteur de recherche, en fait, on ne pose pas une question. On pose une réponse. C'est-à-dire que quand tu veux voir une vidéo particulière, tu mets vidéo machin. Et là, tu l'as. Tu ne dis pas quelle est la meilleure vidéo de. Voilà, parce que tu vas tomber sur des résultats qui te donneront des réponses, des questions en fait, parce que les gens auront posé la même question. Et là on est dans une vraie relation humaine, c'est-à-dire qu'il faut poser des vraies questions.
Oui, ils disent que c'est une interface conversationnelle. Donc tu as une vraie conversation avec l'ordinateur du coup. Alors, Daz, que j'entends ricaner et pouffer depuis tout à l'heure, parce que Daz, je vous rappelle, tacle Fibre depuis 2-3 mois maintenant sur Google Home et les assistants vocaux.
J'ai noté 170 points sur lesquels je pourrais allumer sa chronique.
Et maintenant, il parle comme toi aussi, Fibre. Ouais. Tout change ce soir. Alors, déjà, 170 points.
Non, le premier.
170.
Le premier, c'est que, effectivement, Fibre Optique nous a vendu, survendu, revendu une interface conversationnelle. Ce n'est malheureusement pas le cas. La preuve.
C'est-à-dire.
Bah, OK, Google. Voilà, et après il faut attendre pour dire quelque chose.
Mais non, tu oui. Vas-y, parle.
Non, mais je veux dire, tu vois, moi je parle pas comme ça aux gens en fait.
Excusez-moi,
je dis pas.
Moi, je ne comprends pas.
Voilà, TG. Je dis pas par exemple, Ghislain. Voilà, là Ghislain est focus sur moi et maintenant je lui pose la question.
Mais ça, c'est parce qu'il y a des petits parano dans ton genre qui veulent que.
Non, non, alors les parano, non, c'est même pas question de ça. C'est juste question que. Enfin, personnellement, tu perds plus de temps à dire OK Google, allume la lumière.
Ok, j'allume deux lumières.
Arrête, t'allumes tout chez moi.
Voilà, donc là déjà,
éteins tout.
Ça changera rien parce que ta facture d'électricité, tu vois, l'écologie, quand tu envoies en fait tes requêtes à Mountain View, à Dublin ou je sais pas où, pour que ça revienne chez toi pour allumer ta lumière, alors que tu tends le bras, t'allumes la lumière. Ouais, bon, enfin, bref. Après, j'avoue, non mais voilà, il y en a qui sont
non,
pour la sauvegarde de la planète.
Ça c'est
un des usages.
En fait, moi, ce qui m'embête, si tu veux, je n'ai rien contre la domotique. Je trouve au contraire que c'est très bien. Et si on change la domotique en la rendant ergonomique. Et pas donc, avec.
La domotique, DAS, juste pour.
Oui, c'est ce qui permet de piloter une maison.
Globalement, c'est de connecter toute ta maison.
Voilà, c'est une interface centralisée qui te permet d'ouvrir tes stores, d'allumer tes lumières, d'ouvrir la porte, portes, etc. Ouais. En général, c'est effectivement des technos qui sont plutôt propriétaires et plutôt mal foutus. En tout cas, pour ce qu'on a en France.
Mais qui marchent en local.
Et alors voilà, moi, le truc, c'est pour allumer ma lumière ou pour lancer une playlist, je ne vois pas pourquoi est-ce que Mountain View a besoin de savoir ça et de le stocker chez eux. Et c'est ça qui m'ennuie. Et c'est ça qui ennuie ta copine
attends,
également.
Alors, attends, donc là, on parle de sécurité de vie privée.
Non, parce que le rêve domotique, je suis complètement d'accord, c'est super, ça se pilote à la voix. Moi, pour moi, il y a quand même ce problème de latence. C'est-à-dire qu'il faut balancer le trigger, attendre un petit peu, formuler ta phrase, ça m'énerve.
Est-ce que ce problème de latence, c'est pas comme si on était en Edge à l'époque, on envoyait des requêtes?
Alors voilà,
c'est le 3310 de l'enceinte connectée.
Oui, c'est que t'envoyais ta requête et puis t'attendais que la bande passante te donne juste la réponse, c'est ce qui est peut-être le cas aujourd'hui.
Donc en fait, c'est pour ça que moi, maintenant, je te dis non.
Oui.
Plus tard, les interfaces à la voix, effectivement, je serais plutôt d'accord.
Ah, ça a changé quand même.
Non, mais moi, j'ai toujours dit, je suis pas contre ce truc-là.
Quand tu as lancé Snoop Dogg tout à l'heure, ça t'a.
C'est vrai que ça marche pas mal, c'est vrai. Mais moi, c'est le problème en fait d'avoir une maison connectée plus qu'en local, c'est-à-dire qui communique sans cesse avec Internet et qui envoie mes requêtes et qui les stocke, etc. Je trouve ça un peu chiant en fait.
Mais est-ce qu'il est le cas de tous tes appareils aujourd'hui?
Mais c'est pas. Non, pour moi, c'est pas pareil.
Bah, quand tu envoies une requête avec ton ordinateur ou ton smartphone, n'importe quoi, tu envoies ça perpète.
Non, pour lancer ma playlist, j'envoie pas de requête. Pour écouter de la musique qui est stockée localement sur mon réseau, j'envoie pas de requêtes.
Oui, mais Spotify, il analyse tout ta.
Oui, mais là, je te parle de musique stockée localement, tu vois. Oh,
t'écoutes des MP3 parce que tu veux pas que Spotify te espionne?
Non, j'écoute des MP3 parce que Spotify les a pas, en fait. C'est ça le.
Oui, donc t'écoutes des MP3.
Chose, après, encore une fois, ce truc-là, la façon dont Fibre en parle, c'est pour moi un rêve humide de célibataire qui vivra et mourra seul dans son logement. Pourquoi? Pour une raison ultra simple, c'est que cette enceinte-là, bon déjà, ça veut dire que t'habites dans un studio, parce que tu vois la gueule de l'enceinte, on dirait. Alors les gens peuvent pas la voir, mais on dirait un désodorisant Brise, un truc un peu, c'est le machin que tu mets dans les toilettes en fait. Ça veut dire que dans une maison un peu plus grande, ce qui est quand même le but ultime de chaque personne ici, c'est d'avoir un logement décent. Il faut en mettre dans toutes les pièces, à 150 balles le ticket d'entrée. Merci, mais non merci.
Non, parce qu'il y a le Google Mini.
Et oui. Ensuite, parce que en fait, tu vis dans un silence monacal. Donc forcément, tu n'as pas des enfants, des chats.
Des enfants, ils n'ont pas OK Google tout le temps.
Bientôt.
Non, mais si. Mais en fait,
je pense qu'un enfant, tu lui dis OK Google, il y a un truc qui réagit. C'est comme si un enfant, tu lui dis tiens, c'est un lève-vitre, c'est une vitre électrique dans ta voiture. Il va jamais s'arrêter.
Après le point soulevé par Mélissa de ça me permettrait quand même de discuter, etc. En fait, t'as juste à aller dans un centre avec des SDF ou des autistes. Tu pourras faire exactement la même chose.
Dans
et si PMU, ce sont alors si ce sont
à
si ce sont des autistes ou des SDF, il va falloir que tu
et
parles
je te
lentement
parle
comme ça.
Sur mon temps d'internet, putain.
Internet est partout, Mélissa. Internet est partout. Tout ça pour dire que pour moi, l'objet est sympathique. Mais l'utilisation qu'on en fait, c'est plus long pour moi d'utiliser.
Alors,
ce truc-là.
Das, du coup, là, c'est le point, le log qui arrive. Juste pour tes deux trucs, parce que Google a annoncé deux choses. Déjà, comme dit Fibre, il y a des Google Echo Mini, tout comme tu as les Alexa
Google
Spot.
Google Home Mini.
Google Home Mini et les Alexa Echo Spot.
Non, 29$, je crois.
Non, 49. Ils sont à $49, donc ça commence à baisser drastiquement le coût. Tu peux en mettre partout chez toi. Et de deux, ils ont annoncé surtout le Voice Match. Donc...
Ça marche depuis quelques jours d'ailleurs.
Ouais, tu vas pouvoir un profil suivant ta voix.
Alors,
Oui, alors il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors Sylvain, en fait, m'a vendu le voice match. Alors tu l'appelais pas comme ça, c'est Smart quelque chose, Smart Voice.
Ouais, non, c'est la même chose.
Voilà, donc il m'a dit, et maintenant, j'ai activé ce truc-là sur mon téléphone. Tu ne peux plus trigger mon Google Assistant avec une autre voix que la mienne. Je lui ai dit vas-y. Alors il a fait la requête et ensuite j'ai imité ses inflexions.
Arturo Brachetti.
Ça s'est débloqué de la même manière.
Bon, en attendant qu'Apple le fasse bien.
Une fois sur cinq.
Ouais, une fois sur cinq, c'est vrai. Non, tout ça pour dire que pour moi, effectivement, à partir du moment où tu es obligé de te contraindre, c'est-à-dire que Google Fibre s'empêche d'utiliser les interrupteurs chez lui, on est dans la débilité profonde. Ok, ça doit t'aider. T'es pas supposé.
C'est magique, c'est vraiment fantastique.
C'est magique, du coup, j'ai scotché tous les interrupteurs chez moi pour être sûr que je m'en sers. Je sais pas, pour moi, c'est plus une méthode couée que vraiment un truc réellement, naturellement utile.
Tu veux me faire plaisir, tu peux éteindre la lumière chez moi parce que tu l'as allumée, j'arrive plus à l'éteindre.
Ok, Google. Allume énorme télé.
Mais non! Non! Elle est déjà allumée en plus.
Ah, elle a pas entendu.
Okay, Google. Éteins toutes les lumières.
Ok, j'arrête deux lumières.
Ça veut dire que chez lui, il n'a que deux lumières. C'est un vrai célibataire, tu as raison, Daz. Les chiottes et le salon champ cuisine.
Un monastère.
Non, j'ai connecté que deux ampoules et c'est 34 euros l'ampoule, les mecs. Ouais,
j'avoue, ça coûte cher. Alors voilà, après, il y a donc la borne à 150, mais il y en aura des moins chères, l'âme l'a dit, mais à mon avis, ça veut dire qu'elles capteront de moins loin ou des choses comme ça.
Non, en fait, après, je pense qu'ils sont tous en train de bosser sur des networks, donc des grids d'enceintes connectées, que ce soit Amazon, Google ou Apple qui est un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que chez Google, elles sont toutes connectées et elles comprennent toutes quand tu passes d'une pièce à l'autre. Donc il y en a une qui va dire où le son il baisse chez moi, l'autre va dire où le son augmente chez moi. Donc elles vont prendre le relais.
Comme sur Raspberry Pi.
Sans jamais s'arrêter. Donc elles vont
savoir comment tu te déplaces dans ta maison.
Bien sûr, évidemment.
Et envoyer le pattern à Mountain View.
Et après, tout comme Roomba,
aspirateur.
Qui le vend comme IKEA.
Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, donc il faut la borne plus tous les appareils compatibles.
Il commence à y en avoir beaucoup. Hein.
Donc à 40 euros l'ampoule, je comprends que t'en aies mis que deux, du coup. Il faut que tu installes IFTTT pour prendre en compte toutes les... il faut des Chromecast.
Ça c'est gratuit.
Un Chromecast, ouais. Qui n'a pas de Chromecast.
Donc franchement, qui n'a pas de Chromecast, bah, tous les gens normaux. Donc sincèrement, le billet d'entrée, il est quand même pas donné. On voit que le...
Ah, mais c'est un truc d'early adopter, Daz. On est dans l'année 2 des assistants.
Mais c'est fibrotique, normalement, c'est jamais le...
Non, mais il y a aussi des jeux vidéo dessus, hein, attention.
Ah oui.
En fait, moi, j'ai connu ça parce que Amazon et Google, on drague un peu les sociétés de jeux vidéo pour leur dire « Hey, vous avez pas des bornes gratuites pour développer dessus ?» Et il y a des jeux vidéo AAA dessus, c'est-à-dire avec du voice acting, des acteurs. En fait, c'est le jeu de rôle, c'est-à-dire c'est le maître de jeu, il te dit est-ce que vous allez à gauche, à droite, voilà. Ben, ça marche déjà, voilà. Il y a des grosses licences dessus.
Je n'ai pas compris votre requête. Voulez-vous lancer des shurikens sur des gobelins ou lancer un sort de protection sur le mage noir ?
C'est un peu ça. Je pense que...
Ce serait tellement long. Le paysage défile. Le paysage défile encore. Le paysage défile.
Je vous fais une prédiction. Je pense que c'est vraiment la nounou du futur. C'est évident que le futur petit enfant qui naîtra d'un de nous, je dis pas qu'il est enceint ici, il racontera des histoires plus tard, quoi.
Au dernier point, je t'ai prouvé vidéo à l'appui qu'un enfant remplaçait avantageusement ta saloperie là.
Bah oui, c'est un esclave, tu veux dire. Moi, je préfère avoir des esclaves inhumains.
Et alors pour les auditeurs qui n'ont pas vu, Daz a posté une vidéo où il disait à sa fille
allume la lumière.
Ok, Lia. Allume
la lumière. Mais est-ce que ton Google Home fera sa crise d'ado dans 10 ans et il dira mais va bien te faire foutre, papa, t'es relou.
Franchement, je rigolerais que le truc te dise j'ai laissé les lumières allumées. c'est sûr.
Je décollerai les adhésifs du
autre point qui a été un peu soulevé, pas dans la chronique de film, mais du coup dans vos réactions un peu immédiates, un peu quasiment viscérales, il y a une sorte de peur. J'ai senti qu'il y a une sorte de fantasme et de peur de voir l'ordinateur disparaître et de le sentir quelque part autour de vous, à l'écoute, réactif, prêt à vous aider, mais un peu invisible aussi. Et finalement, c'est vrai qu'on se l'est dit, Google Home, en fait, ne fait rien de plus que votre téléphone avec Google Assistant, sauf qu'il y a un côté, l'ordinateur a disparu, l'interface conversationnelle n'a rien de palpable. Et j'ai senti que c'était un peu...
C'est le log, là, pour de vrai. C'est pas...
Non, par exemple, Sylvain lui-même le disait, ça me fait un peu bizarre, un peu tiraillé, alors qu'en fait, mon téléphone fait à peu près pareil.
Sylvain, il disait que c'était d'avoir un micro sans cesse allumé chez lui.
En gros, son téléphone à Google Assistant fait la même chose, d'une certaine manière.
Mais je pense pas que l'interface vocale remplacera l'interface clavier-souris ou clavier tactile, etc. Ça va être des combinaisons, donc je pense pas que la disparition du palpable...
Moi, vous flippez pas de ce côté justement de se dire, je vois mon ordinateur en fait, J'ai une app ou un service ou une entreprise qui c'est m'écoute le tout le temps, qui est tout le temps là, mais que je ne vois plus.
Moi, franchement.
Et à moi, j'ai l'impression de plus si maîtriser ma vie privée.
Alors, moi là-dessus, vraiment, hein, si l'interface conversationnelle est réellement efficace,
ouais.
J'en ai rien à foutre.
D'accord.
Ça me dérangera pas du tout, au contraire.
D'accord. Si, okay.
Tu vois, Cortana, si elle se met à faire toutes les tâches courantes, mais vraiment de manière fluide.
Cortana, on rappelle, c'est l'assistant vocal de Microsoft.
De Microsoft. Si elle se met à. Actuellement, elle est même pas foutue d'éteindre l'ordinateur. Tu peux lui dire. Cortana éteint
tout. Tout essayé, elle sert à rien.
Non, c'est débile. Donc, le jour où c'est vraiment efficace et où tu peux te passer d'un écran pour toutes les tâches courantes, mais de manière fluide, oui. Sans latence, sans trigger word que tu ne peux pas changer, etc. Ouais. Moi, ok, pas de problème.
Ok, ok. David, Fibre Daz, comme il a un peu changé d'avis depuis 2-3 mois.
Ouais,
enfin, t'es progressif.
Pas dans ma maison, non. Là, tu parles de remplacer l'ordinateur. C'est-à-dire quand je me mets devant ça,
enfin, que ce soit un de tes ordinateurs principaux.
Oui, ok. Pas de problème.
J'insiste un peu dessus parce que j'en ai pas parlé. On en a pas parlé. On a parlé de peur, mais il y a aussi, je trouve, un effet émerveillement. C'est-à-dire que quand vous avez eu votre premier smartphone, peut-être vous avez été émerveillé. Ouais. Et moi, là, je suis émerveillé par ce truc. Moi, je trouve ça fantastique d'être sur le canapé et par la voix de dire je veux de cette série. Pause, je veux cette information, pause, ouais, je dois aller à ce rendez-vous. Enfin, sans ouvrir les yeux, je trouve ça fou.
Ouais. Enfin, j'avoue qu'il y a un petit côté
alors,
magique.
Pour le porno, et ben, tu le fais à la voix ou pas?
Non, mais ça se fait.
Alors, est-ce que tu utilises encore un clavier, un bon vieux clavier?
Non, c'est pas ça, mais alors figurez-vous, alors c'est assez récent. Pornhub.
J'ai peur. C'est le moment où ça dérape.
Non, Pornhub est compatible Chromecast depuis peu. Ce qui m'étonne d'ailleurs pour.
C'est vrai.
Ouais, c'est-à-dire que tu peux caster du porno sur ta télé si t'as Chromecast. C'est assez ouf.
C'est fou ça.
Ouais. Donc, c'est compatible. Mais attends, mais Chrome c'est compatible Chromecast. Tout ce qui passe dans Chrome, ouais. Tu l'envoies dans.
Non, tu peux caster tout ce qui est dans le browser, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu peux caster spécifiquement la vidéo. C'est-à-dire, tu sais, t'as l'icône casting sur Pornhub et tu peux caster sur Chromecast.
Ah, tu castes pas l'onglet. Ouais, tu streames pas ton
nom. Tu streames spécifiquement la vidéo et je trouve ça bizarroïde, enfin pour une société américaine, mais c'est peut-être une position anti-Apple en quelque sorte. Donc
si
peut-être.
Si Pornhub adopte une technologie, vous connaissez la suite.
Voilà. Tout à fait.
Et c'est vous les produits.
Ce côté magique, du coup, vous l'avez pas du tout. Si Daz, on a vu que ça t'a un peu impressionné sur quand t'as parlé de, t'as voulu lancer un Snoop Dogg avec un accent anglais et ouais. il l'a reconnu.
Ouais, non, c'est pas mal.
Il y a un truc pour qui ça va être très très magique, c'est aussi. Tous les gens du marketing qui sont en train de saliver en se disant ouais. Un nouveau média à investir, qu'est-ce qu'on va se marrer, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut mettre.
Il y a un truc qui a surpris Ghislain tout à l'heure, c'est quand je dis quelles sont les nouvelles.
Il n'a rien dit.
Bon, si vous voulez, on peut le faire, mais c'est un peu long. Mais en gros, il prend tous les titres de France Info, puis tous les titres de France Culture, puis tous les titres de RTL.
Tu peux changer l'ordre ou pas?
Je sais pas si c'est possible, mais j'ai pas fouillé. Mais en tout cas, enfin, tu vois, il fait une synthèse automatique réactualisée. C'est-à-dire que si tu passes, il est moins 5 et qu'il est 5, il te met l'actualité de France Info. Voilà. Donc, il y a quand même du taf derrière, tu vois.
C'est... Et en parlant d'actu, Mélissa, est-ce que pour un média, ça pourrait être intéressant? Enfin, on parle de podcast, mais même de. Imaginons que Mélissa disait, ça m'a appris à écrire Internet et ça va peut-être me réapprendre à parler. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un jour des journalistes audio qui déclament leurs articles? Et genre dire, ok, enfin je vais pas le dire, ok, lance-moi le dernier article de Mélissa Bounois, et paf, ce serait ta
bien.
Voix.
Si c'est optimisé, on va y arriver. Enfin, tu vois, là, t'as déjà les flux de Radio France, enfin de France Info en tout cas.
Ouais.
De toutes les radios.
Non, mais que là, le journaliste doit, tu vois, le journaliste multimédia, plus multimédia que jamais, doit écrire et enregistrer son article.
Tu veux dire quoi, que t'auras un voice pack
Non, mais c'est, attendez, les podcasts, c'est
Jean-Michel Apathy.
Non, là, il te diffuse, ce serait pas une voix de synthèse de Jean-Michel Apathy, c'est que lui, en fait, il enregistre ses articles.
Ce qui actuellement, c'est des boîtes qui contactent des médias pour leur dire oui, le média audio est de plus en plus utilisé. On a une technologie de text to speech à vous vendre pour traduire, enfin pour sonoriser tous vos articles. Aujourd'hui, cette techno, elle existe, donc c'est plutôt ça qui va se passer plutôt que les journalistes qui vont lire. Les journalistes, ils répondent même pas aux commentaires, ils vont pas lire leurs articles. C'est trop fatigant pour eux.
Une attaque frontale.
Non, mais en revanche, pour les podcasts, c'est cool parce que si ça lance les podcasts, parce que là, ça marche pas encore, c'est ça?
Alors, le problème, c'est que, en fait, il y a des plateformes, toutes les plateformes de streaming fonctionnent, sauf SoundCloud, parce que SoundCloud a des problèmes en ce moment, donc je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter.
Donc là, si je lance un podcast, ça marche pas.
Ça dépend si tu lances sur Spotify, ouais.
On n'est pas sur Spotify.
Attends, je peux tester.
Il n'y a pas de podcast lancé sur Spotify.
Ok, Google. Attends, comment on fait pour Spotify?
Maintenant, je veux écouter, là, tu dis le temps du podcast.
Ok, Google, je veux écouter.
Pour être honnête,
Je ne sais pas comment vous dire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que
le futur.
Elle, exemple, elle n'a pas domestiqué sa voix. C'est-à-dire qu'elle
dit. Non, non, mais j'apprends à parler.
Écoute tes fibres. Le mec, c'est André Manoukian.
Non, c'est pas ça. C'est ça, mais quand tu veux quelque chose, il faut le dire. Tu vois, tu dis, je le veux.
Mais en voix de tête.
Oui, je le veux.
Ok Google, je veux écouter Homecoming.
J'ai cherché Spider-Man Homecoming, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le moment.
Okay, est-ce Google. Que ça serait un féodé au grand capitalisme?
Ok Google.
Homecoming sur Spotify.
Je veux écouter le podcast Homecoming sur Spotify.
J'ai cherché podcast, mais ce contenu n'est pas disponible ou ne peut pas être lu pour le
El
moment.
El futuro. Voilà.
Attends, on va essayer une dernière fois Homecoming sur, podcast, sur Spotify.
Ok Google, je veux écouter Homecoming sur Spotify.
Voulez-vous toujours écouter ce contenu sur l'appareil l'énorme télé?
Non.
Qui est toujours allumé.
Non.
Alors on le rappelle.
La télé est sur Pornhub.
Alors pour les auditeurs qui ne comprennent pas, on enregistre chez Ghislain.
Non.
Donc Fibre Tigre a emmené son Google Home et son Google Home continue à contrôler chez lui. Donc chez Fibre Tigre depuis tout à l'heure. C'est le festival de son et lumière à Chambord, les gens comprennent pas. Ils voient un appartement vide avec du porno, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent.
C'est ça l'a lancé, ça a lancé le podcast.
C'est le podcast ou pas?
Ah oui.
Non, c'est un son, non? C'est un morceau qui s'appelle Homecoming.
C'est la musique,
ou alors c'est une vidéo de Pornhub.
C'est pas mal, cette 808 distordue.
Non, il aurait fallu que je prenne un podcast qui a un nom qui n'est pas un nom de chanson. Ça
non, mais
donc,
non, mais pour les auditeurs qui ne comprennent pas vraiment, on est chez Ghislain et Angie. Et à des kilomètres de là, il y a la maison de
l'énorme télé.
Mais le Google Home n'a pas compris qu'il avait été déplacé, donc il continue.
Par contre, j'en profite puisqu'on est un peu en réunion de qualité et qu'on a aussi une assistante.
Oui, on va en parler après.
Mais si nos podcasts d'Az étaient sur YouTube, on pourrait simplement dire je veux écouter Studio 404 sur YouTube et on aurait tous nos podcasts. Voilà.
Ce qui est un argument en plus pour mettre tous nos podcasts sur YouTube.
Et ça tombe bien puisque Sam est présente dans la pièce et on peut lui parler comme si c'était une borne. Google, parce que elle, on n'est pas obligé d'attendre et d'avoir des trigger words débiles à lancer avant.
On peut
Sam,
discuter.
Il faudrait que tu mettes les podcasts sur YouTube et voilà.
T'as dit Sam d'abord quand même d'abord.
Oui, bah normal.
C'est marrant parce que quand j'ai dit OK Das, tu peux refaire ta chronique, ça marchait pas. Pourtant, j'ai resté 4 fois. Mais on en parlera tout à l'heure. Allez, on s'arrête là en tout cas pour le Google Home. On attend impatiemment vos retours, vous les auditeurs, si vous en avez acheté un, si vous en avez bidouillé un ou si vous êtes totalement contre.
FAQ.
Premier FAQ nous vient de Arzel qui nous dit « Est-ce que les solutions de type Slack et Discord ne deviennent-elles pas plus polluantes elles-mêmes pour l'attention que les mails ?» Alors, question intéressante puisque à la base, Slack et Discord étaient censés être ces plateformes qui allaient tuer le mail. On en a parlé dans plusieurs 404 et on utilise beaucoup ces plateformes. Est-ce qu'à la fin, on ne se retrouve pas dans le même problème que n'importe quelle plateforme de communication où il y a des notifs dans tous les sens? D'accord ou pas d'accord?
D'accord.
Alors attendez, Mélissa, d'accord. Pour toi, en fait, finalement, c'est...
Bah, en fait, quand je vois la masse de messages Slack de Slate.fr, par exemple...
Ouais.
C'est pour très longtemps.
Après, j'ai celui de 404 qualité pour me rattraper. C'est fou. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est beau. Du coup, on se dit, ah, c'est bon, on n'a pas 400 trucs mail à lire. Et du coup, en fait, ça défile juste. Mais en fait, t'as juste 12 channels et 40 messages dans chaque channel avec 12 mentions. Et...
Donc, ça n'a pas amélioré ta communication.
Et à chaque fois que je suis pas là, vous me faites des pings en fait. Mélissa, et je suis genre putain, laissez-moi tranquille. Mais j'arrive. C'est compliqué, ouais.
Mais c'est mieux pas que le mail. C'est mieux ou pas que le mail où tu te retrouves au point de départ.
L'expérience utilisateur est optimisée. Donc, franchement, c'est cool. Mais en fait, juste, c'est plus dur de couper parce qu'il y a vraiment un flux souvent continu sur le Slack de 404 ou celui de Slate.
Très bien. Qui voulait répondre? Sylvain?
Moi, il me suffit d'imaginer à quoi ressemblerait ma boîte mail si nous, on n'était pas sur Slack.
Ouais.
Et je me dis, ça va, c'est bon. Ouais. Je suis content qu'on soit sur Slack.
Moindre mal.
Je suis content que ça existe.
Parce qu'au début, on était sur les mails. Putain.
Ouais, ouais. Et on avait des chaînes immenses.
Les replay coup,
ouais.
On avait des chaînes immenses, mais on disait que des trucs qui valaient le coup de.
Ah non. Si tu pourras revoir les chaînes immenses.
Il y avait des gifles vendredi, en tout cas. je pense que ça a beaucoup diminué mon nombre de mails. Après, ça l'a pas remplacé, donc c'est effectivement encore un truc qui se rajoute, quoi.
D'accord.
Ouais.
Daz.
Ouais. Moi, je partage l'avis de Mélissa là-dessus. Je pense qu'effectivement, en fait, ça marche bien tant que tu n'as pas plusieurs cercles conversationnels sur les mêmes applis. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as une communauté sur Discord, une autre sur Slack,
et tes mails et Twitter, etc., ça marche. À partir du moment où tu commences à avoir 3-4 groupes Slack, déjà c'est le bordel. Tu vois, ouais. Nous on a rajouté la JVTV. Moi, mon truc Slack, je pense que la batterie de mon téléphone ou de ma montre, c'est juste les notifs Slack de la JVTV pour ouais. des mecs que je connais même pas, ouais. qui parlent de trucs que je comprends pas non plus. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est à moi de régler les notifs.
Oui.
Mais effectivement, moi, je trouve que c'est très, 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 très chiant. Si en plus tu rajoutes Discord par-dessus, c'est insupportable.
D'accord. Libre.
Alors, je dirais moitié-moitié parce que.
Ok, Google.
non,
arrête. Voilà. 50 divisé par 2.
Ah bon, d'accord.
bon, parce que le Slack permet de se réunir un peu comme une famille. On est tout le temps là, plus ouais. ou moins, dans la même pièce. Mais c'est vrai qu'il a le défaut
Sauf
de.
Mélissa, hein,
les conversations, ouais, les conversations sont un petit peu. Comment dire, quand il y a un sujet grave. Je trouve qu'il faut genre sonner la cloche. Et moi, j'envoie oui. un email. Quand il y a un problème, je dis bon les gars, là, le camp 2, il va falloir le faire. Hein, tu vois
il y a tellement d'analogies à faire en fait. Voilà. C'est exactement comme la chronique du coup de fil. Quand quelqu'un t'appelle, c'est important. Et là, du coup, quand quelqu'un t'envoie un mail ou un mail at all, c'est vraiment que c'est important. Quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, il y a nécessité, par exemple, dans 404, quand il y a un truc grave, il faut le faire par mail parce que c'est un peu trop light, la déconne. Finalement, rien n'est grave dans notre Slack, tu vois.
Ouais.
Et bon, c'est...
En fait, c'est pas ça. Le problème de notre Slack, c'est que comme on est des cracos, on paye pas. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, tu satures l'espace gratuit.
Non, mais
coup,
le problème, c'est que
c'est chelou, quoi.
C'est que on aime bien discuter. Et dès que quelqu'un pose une question, il y a des débats sans fin, il y a des mecs qui lancent des vannes, tout ça. On refait oui. 404 en écrit, ouais. et à un moment, il faut trancher, tu vois.
Moi, j'aime beaucoup l'analogie de la colocation, en fait. Parce ouais. que du coup, moi, je m'amuse à faire des petites piques aux gens en disant « Mec, excuse-moi, mais les couteaux dans la vaisselle, non, tu les mets pas comme ça, quoi. » Genre, à chaque fois que tu poses des trucs un petit peu cryptiques dans le chat général, au lieu de les mettre dans le 404, hein. je fais « Fille, moi, tu peux revenir dans le chat, s'il te plaît
ouais, ?» Je trouve que t'as un petit côté modérateur de la forum charte, à l'ancienne. Bah, j'ai une étiquette
C'est mon côté coloc, ça, tu vois. C'est,
voilà, vous savez qu'on a un vrai forum à modérer, hein, vous êtes au courant ou pas?
Ah ouais, c'est vrai.
JDC, JDR.
Bon, on fera toute notre communication sur le forum de qualité. Allez, on attaque tout de suite le deuxième sujet, et c'est Sylvain qui s'y colle.
Sujet numéro 2.
Bye bye, chèque et monnaie, nos mobiles sonnent le dernier tango du cash.
Oh, double jeu de mots.
Pas mal.
Ah, je sais que Daz, il a kiffé.
Ah, tango ouais, du cash. Tango et cash.
Dernier tango et cash. Bref.
Et ben,
on va reparler d'argent encore, Sylvain.
Tout à fait. Moi, je sais pas ce que j'ai avec la thune en ce moment. De toute façon, c'est,
tu t'es marié
avec. C'est la deuxième chronique en peu de temps où on va parler pognon, flouze, pépette, grisby. Enfin, pas vraiment, justement. En effet, ces magnifiques mots d'argot français sont synonymes d'argent en espèces. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'argent dématérialisé. Mon histoire avec l'argent dématérialisé, elle commence en 2009. Je suis à l'EWeb, invité en tant qu'étudiant pour un petit reportage sur le blog du CELSA. 2009, c'était il y a longtemps, on s'en rend pas compte.
Est-ce que Loïc Lemur était déguisé en Angry Bird en 2009?
Non, c'était 2011, ça. Voilà. J'ai toutes les dates en tête, je suis l'archive de l'EWeb. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, est sur scène pour parler de sa nouvelle start-up qui s'appelle Square. C'était la naissance de Square. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, Square, c'était un petit cube en plastique qu'on branchait sur son iPhone via la prise jack. Rest in peace.
Donc c'est plus possible.
C'est plus possible. Voilà. Et qui permettait de swiper sa CB pour réaliser un paiement, en fait, un paiement mobile. C'est le premier terminal de paiement mobile de l'histoire. J'ai retrouvé mes tweets de l'époque.
Tu veux dire paiement, hein, de paiement, c'est ça que tu
J'ai dit
dire.
Quoi, moi?
Tu dis paiement et ça m'énerve.
Écoute, il est stéphanois.
Moi, je dis paiement parce que je l'écris avec comme, un Y.
Comme...
c'est pas la bonne orthographe.
C'est comme Jacques Dorsey, tu vois.
Ouais, ok.
Sylvain Palais,
okay,
paiement.
Okay, voilà. Okay.
Donc paiement, excuse-moi, mobile de l'histoire. J'ai retrouvé mes tweets de l'époque au moment où Jacques Dorsey fait la démo de Square. Attention, il fait Bonaldi. Non, Ghislain, faut pas lancer un truc. Je lis mes tweets. Donc, 9 décembre 2009, Jack Dorsey, donc c'est là moi qui parle sur Twitter. Jack Dorsey fait la démo de son nouveau service de paiement par carte via l'iPhone. L'appli plante, quelqu'un crie Pay by cash. Bonne blague.
C'était un gros bide à l'époque.
Exactement.
Jack Dorsey est habitué quand même.
Au bide.
Au bide, ouais. Ouais. Un petit peu.
Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, il existe pléthore de start-up, banques en ligne, applications qui révolutionnent ce pan de l'économie qu'on appelle la fintech chez les initiés. Alors, il y a iZettle, il y a PayPal, il y a Lydia, les Français, N26.
Il y a PayPal.
PayPal, ouais. Ouais, PayPal.
Genre, tu donnes l'argent à Paul, quoi. C'est... il faut payer Paul maintenant.
Revolut, Pumpkin, encore des Français, Swipe and Pay, Stripe, etc., etc. Toutes ces solutions, elles partagent le même objectif. D'abord, faire le maximum de chiffre d'affaires, parce qu'il ne faut pas déconner, on ne va pas se cacher. Et ensuite, contribuer à une prophétie, que dis-je, un mythe, celui de la société sans cash, qu'on appelle la Cashless Society. Flashback, 1978, France, journal de 20h.
Maintenant, reparlons de
L'ordinateur qui décidément est bien sorti de sa préhistoire et commence son entrée dans l'âge d'or. Au début, on s'en est méfié.
En arrière-plan, t'as des grosses bobines de bandes magnétiques.
De bureau ou d'administration. Et puis, on a fini par s'habituer à cette révolution. Ça ne nous étonne plus, en fait, de recevoir nos factures, nos feuilles de paie, nos relevés de compte, nos contraventions, et j'en passe et des meilleurs, établis par des machines. Et pourtant, il paraît que nous n'avons encore rien vu. Oh, récemment, mec. Le rapport de messieurs Nora et Minck nous l'annonçait. Aujourd'hui, un symposium, comme on dit, organisé par la Fondation Bull, se réunit au Palais des Congrès à Paris pour étudier tous les changements, tous les bouleversements même qui peuvent naître des progrès de l'informatique. Ordinateur domestique, machine à soigner ou à enseigner, machine à communiquer, les exemples ne manquent pas, de ces innovations qui pourraient changer notre vie. François de Closet nous présente une de ces possibilités de l'avenir, la monnaie électronique.
Exemple d'innovation informatique, la carte mémoire. La mémoire, vous le voyez, c'est ce petit circuit intégré qui pourrait servir de monnaie électronique dans l'avenir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au début du mois, votre banque vous remettrait cette carte avec, par exemple...
Donc en 78, on annonce aux 20h qu'un jour peut-être les Français...
Ah, c'était pas le 404 de l'époque, là ?
C'était ça.
Ils étaient bons. Hein.
En 78, les Français pourraient peut-être se passer des chèques et des espèces pour utiliser ces drôles de petites cartes à puce. J'en profite pour faire un big up à Roland Moreno,
qui s'est fait niquer, mort en 2002,
qui a créé à l'époque une SARL qui s'appelait Innovatron. C'était avant les startups en EO, on mettait des troncs à la place plutôt. Et c'est l'inventeur de la carte à puce, tout simplement. Ouais. Merci Roland. Innovatron, donc Innovatron, je pense.
Oui, c'était français, ouais, monsieur. Ouais.
Il faudra quand même attendre 10 ans, c'est-à-dire 1986, pour que les banques commercialisent les premières CB à puce, la fameuse carte bleue. Il y avait des cartes de paiement avant, mais la première carte à puce, c'est 86, paiement.
Je le pardonne.
Ce qu'il faut retenir de ce petit historique, c'est que la première initiative d'argent des maths, elle vient de France.
La France, pionnière de la télématique, fleuron de l'innovation, nec plus ultra de l'économie, invente l'argent dématérialisé.
Et il faudra attendre 2001, il y a 15 ans.
Attends, c'était pas une archive qu'on écoutait là ?
C'était moi, c'était une imitation !
Ah, il est très fort,
ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une imitation. Ah là là.
Donc il y a 15 ans, en 2001, l'apogée de la carte à puce. Hein, pour la première fois, on enregistre plus de paiements par CB que par chèque.
En 2001, c'est pas si loin que ça.
C'est
même carrément hier, quoi.
Flash forward 2017. Aujourd'hui donc, la France fait partie du top 5 des pays du monde à faire le moins de transactions par cash en volume. En volume, c'est important. Parce qu'en nombre de transactions, on est encore à 55% à les faire en espèces. Donc c'est seulement, effectivement, sur les petites valeurs, vous vous en doutez, la baguette de pain, le paquet de clopes, le demi au comptoir. La faute, bien entendu, à ces enfoirés de commerçants, mais on va y revenir. Le chèque, c'est un délire gravement culturel aussi chez nous. Il a fortement baissé depuis ces dernières années, mais il est toujours à 15% des transactions en France.
Mais où est-ce qu'on paye par chèque ?
C'est une exception française. Il faut savoir qu'à nous seuls, on fait 70% des chèques de l'Union européenne.
C'est incroyable. Incroyable.
Donc il n'y a vraiment qu'en France qu'on fait des chèques encore aujourd'hui, tu vois. Ça va pas bien la tête. Ah bon monsieur, je suis désolé, hein, le minimum de carte c'est 30 euros. Hein. Ah bah vous savez, en dessous la banque elle nous prélève trop. Bon, il y a un distributeur juste là, vous prenez à droite en sortant, vous marchez un kilomètre et vous y êtes. Ah, sinon vous pouvez me faire un petit chèque, hein, 1,50€, ouais, au revoir merciant. Qui n'a jamais été victime de cette fils de puterie commerciale ? Si jusqu'à maintenant j'étais plutôt compréhensible, je fermais les yeux, désormais je n'en ai plus rien à battre, je refuse quand c'est le cas. D'une part, la loi Sapin a fait baisser le taux fixe des commissions imposées par les banques. Et de l'autre, des solutions alternatives de boîtiers de paiement qui cassent les prix. Il y en a des tonnes, j'en ai déjà cité. On peut faire du iZettle, on peut faire du PayPal, on peut faire du Swipe and Pay. Donc, allez vous faire foutre. Je vis à Londres depuis juillet. J'ai retiré une seule fois du cash. Une seule fois en 4 mois. C'est très simple. Un commerçant qui exige du liquide là-bas, les gens n'y vont pas. En résumé, question cashless society.
C'était pourquoi ton
En France, cash on craint un peu. C'était pour un fish and chips.
Un fish and chips. Fish and chips. Okay, c'est une drogue là-bas. Okay.
Tout à fait. C'était un nom de code. donc en France, question cashless society, on craint encore un petit peu. Mais alors, si on considère que la CB est un support physique dont il faut se débarrasser également, alors là, on craint beaucoup. Je parle bien entendu là du paiement mobile. Du paiement mobile, pardon. À Londres, encore, accoudé au comptoir d'un pub alors que je veux régler ma pinte, le barman, un cinquantenaire grisonnant, m'annonce que sa machine à carte est cassée. Je n'ai pas le temps de rouler les yeux qu'il dégaine son téléphone et me propose un paiement sur PayPal.
Beau gosse.
En Suède, lors de la quête dans les églises, les fidèles payent en switch avec leur téléphone, une monnaie dématérialisée créée par un groupement de banques suédoises. Okay. Mais c'est en Asie que c'est le plus impressionnant. En Chine, par exemple, dans un McDo en moyenne, il y a une caisse pour payer par CB, 4 ou 5 si tu payes avec WeChat Pay. Et là, c'est carrément le GAFA local qui a la main mise sur l'argent des maths. Et il n'y a pas de caisse si tu veux payer en liquide, tout simplement. En Corée, le gouvernement a annoncé la disparition des espèces dans les 5 prochaines années. Même au Kenya, 70% de la population utilise M-Pesa. Je ne sais pas.
Quelle Corée, au fait, t'as pas précisé ?
Corée du Sud.
Ok.
Je n'ai pas de chiffres sur la Corée du Nord.
Bah justement, il y en a pas.
Au Kenya, 70% de la population utilise M-Pesa, le WeChat local, et en plus, ça marche sur un 3310. Ce qui est drôle, c'est le Kenya. Ce qui est drôle, c'est que
je l'attendais. T'es vraiment un salopard.
Ce qui est drôle, non, mais c'est une vérité. Compliqué d'avoir un smartphone au Kenya. Ce qui est drôle, c'est que ce sont les pays les moins bancarisés, hein, c'est un terme qui existe, qui ont 10 ans d'avance sur nous. Ils ont carrément sauté une génération, ils ont sauté celle de l'ordinateur personnel. Ils sont 100% mobiles et le paiement par téléphone, c'est donc beaucoup plus naturel chez eux que chez nous. Alors nous, pourquoi on rame si fort ? Beaucoup d'études évoquent le manque de confiance et de sécurité dans le paiement NFC, par exemple.
Ah, c'est bien français, ça.
C'est très français. Mais à mon avis, c'est surtout une question d'équipement. On oublie trop vite que le smartphone de base, le smartphone Android de base, celui que tout le monde a, il freeze quand tu lances 3 applis en même temps. Alors une puce NFC, laisse tomber. Pour ce qui est du QR code, hein, comme en Chine avec WeChat, moi je suis prêt à croire à son retour en grâce. Il a été remis au goût du jour par Snapchat, selon la même stratégie appliquée par Stringer Bell dans The Wire. Le produit ne se vend pas, change le nom du produit. Boum, le Snapcode. Je ne serais pas étonné de voir débarquer dans quelques années un Visa code qu'il suffirait de flasher avec une appli Visa, très light, pour être débité. Mais au final, une cashless society, est-ce que c'est si cool ? Pour nous, quand je dis nous, c'est nous autour de la table, hein, des urbains connectés... Voilà, qui en ont marre de chercher leur monnaie dans leur portefeuille. Oui, c'est si cool. Pour l'État, oui, c'est cool aussi. Moins de trafic, moins de corruption, la fin du black.
Plus de TVA.
Ouais. Plus de TVA. Ouais. Tout est déclaré. Pour les banques, oui. Vous n'imaginez pas le prix que dépensent les banques chaque année pour trier des chèques, même si c'est plus ou moins automatique aujourd'hui. Ça coûte quand même encore une fortune, même à envoyer et à imprimer. Mais pour ceux qui vivent en marge, ceux qui n'ont pas de compte en banque, ça existe. Ils sont presque 10% aux États-Unis. Ceux qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de justificatif de domicile, bah pour eux, c'est une catastrophe. À Londres, toujours, désolé pour mes anecdotes d'expat, les SDF londoniens, ils gagnent leur vie en vendant des journaux. Ça s'appelle The Big Issue, c'est un journal qui vend deux fois plus cher que le prix que ça leur coûte acheter. Et bien aujourd'hui, ils s'équipent de terminaux mobiles Easytel, donc des petits terminaux ACB. Et du coup, les gens dans la rue voient ces SDF qui vendent des journaux avec des terminaux mobiles et des smartphones et ils se disent, mais est-ce qu'il est vraiment SDF ? Bizarre. Hein.
C'est affreux, genre trop moderne pour être pauvre.
Trop moderne pour être pauvre. C'est aussi une catastrophe pour toute une partie de l'économie qu'on appelle celle du black. Les salaires non déclarés, qui sont une fils de puterie du point de vue de la société, mais dans la réalité, dans les campagnes, chez les précaires, chez certains artisans, chez les sans-papiers, c'est un moyen de
survivre. Parisien.
C'est un moyen de survivre dignement.
Pas le nôtre.
Alors nous, urbains, merci Fibre. Alors nous, urbains, connectés, bien établis, on est pour, c'est évident. Mais est-ce qu'on représente le futur ? Est-ce que dans un contexte de peur de la surveillance, de contrôle omniscient, de Google Home, de grandes institutions qui nous surveillent et voient tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est prêt à abandonner une composante de plus de notre liberté, au sens libertarien du terme ? Est-ce qu'on peut aller off the grid si on n'a plus de cash ? Alors bien sûr, dématérialisation, c'est pas forcément synonyme de traçabilité et de surveillance. J'en parlais dans ma chronique de juin. Mais le futur dans lequel nos monnaies virtuelles sont gérées par le blockchain et nos banques sont décentralisées semble pour l'instant assez loin. Il est plus probable que nos enfants payent un jour leurs implants oculaires en Ethereum que nous, notre baguette de pain en Bitcoin, malheureusement. Notre futur proche, c'est 100% de nos transactions sans pièces, chèques ni billets, mais avec un compte en banque qui sait tout de nous. Alors, est-ce qu'au nom de l'UX, du frictionless, de la praticité, est-ce qu'on est prêt à faire une croix sur la bicrave, les marchés parallèles et les liasses sous le matelas de grand-mère ?
Ah, question posée par Fibre et question qui parle beaucoup à Daz parce que t'as vu, il a dit bicrave, il savait que Daz allait tout de suite avoir les yeux qui pétillent.
Il a aussi cité Stringer Bell, je pense que Daz là, il est hypnotisé.
Vous blaguez, mais moi perso, ça fait une éternité que je paye plus en liquide. Hein.
J'ai
toujours une carte bancaire sur moi et comme je ne bois pas d'alcool, je vais jamais dans les rades. Ouais, et comme je vais pas dans les rades, j'ai jamais besoin d'avoir du cash.
Quand t'achètes du pain.
J'achète pas de pain, mec. Okay. Je suis créole. J'achète un sac de 52 kilos de riz et voilà, c'est terminé.
C'est intéressant parce que Moneo,
Je sais pas si vous souvenez de Monéo. Bah, c'était un échec. C'est mort. C'est jamais
décollé. En fait, Monéo en soi est mort, mais les cartes sans contact sont
les le paiement sans contact. Moi, ce qui m'emmerde, par exemple, c'est pour la France que tu citais dans tes exemples, c'est la friction qu'il y a au niveau des banques qui clairement veulent en être et veulent pas perdre le truc. Et typiquement, par exemple, Apple Pay, ça fonctionne. Eh ben, je suis à la BNP, qui est normalement une grande banque, mais comme ils essaient de pousser leur propre truc de pay libre, je sais pas quelle merde en NFC là, et ben du coup ils bloquent Apple Pay sur.
Pareil, ça marche pas chez moi. Donc, attends, c'est de la merde. Est-ce qu'on peut évacuer une partie du débat ? On est tous d'accord pour dire que les pièces, les billets, les chèques, ça fait chier.
C'est relou.
Est-ce qu'on est d'accord pour dire que d'un point de vue purement UX machin, le smartphone devrait gérer ça et que ça doit disparaître aussi ?
Non mais.
On est tous d'accord pas pour les.
Moi je suis d'accord.
Pas tout à fait.
D'accord, fibre.
Je trouve que il y a. Comment dire ?
Un charme désuet.
Non.
Ça me fait chier.
Attendez, excusez-moi, j'essaie de formuler ça.
On peut faire de la corruption.
En fait, il y a un problème aujourd'hui dans le fait de payer avec PayPal, par exemple. C'est que ça n'exempte pas la fraude. Pour moi, enfin, il y a une façon d'utiliser PayPal qui est très simple, qui est la même chose que de payer au black, en fait, parce que si tu as un compte PayPal non déclaré, ben ton fish and chips, ça se trouve tu l'as envoyé sur un PayPal suisse, tu vois.
Ton PayPal, il est qu'on lie un compte en banque.
Ouais, il est obligatoirement lié à un compte en banque.
Mais non, pas du tout. Il peut être complètement
standalone.
Il peut être tout seul et tu peux acheter des choses sur Amazon avec ton PayPal. C'est quoi ton problème? Par contre, comptablement, il est géré comme un compte en banque quand il est déclaré, mais il peut ne pas être déclaré. C'est-à-dire que PayPal, c'est un peu une demi-suisse. C'est-à-dire que t'es pas obligé de déclarer, mais enfin, t'es obligé de le déclarer, mais personne peut le traquer.
C'est comme le PlayStation Network ou l'eShop Nintendo ou n'importe quel truc où tu peux cagnoter pour payer des trucs après avec, en fait.
Ouais, enfin, je suppose que tu peux acheter des jeux vidéo sur ces plateformes. Oui, avec PayPal, tu peux tout acheter.
Sur PayPal ou sur Steam, enfin, toutes ces plateformes, effectivement, leur propre.
C'est pas lié forcément à ton compte bancaire, mais ok. Ouais. Et donc ça t'emmerde.
Non, je dis pas ça, mais je dis que dire que, enfin, parler de la fraude pour passer du.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Des coupures. Et en plus, voilà, par exemple, en Inde, si vous voulez, pour limiter la corruption, ils ont une idée, je trouve absolument extraordinaire, ils ont enlevé les grosses coupures. C'est-à-dire qu'il n'y a que des billets de 1 euro qui circulent. Donc quand tu veux donner 100 000 euros à un mec, tu es obligé d'avoir 10 sacs de sport avec toi. Mais donc c'est pas possible.
C'est le cas dans l'Union Européenne, le billet de 500 euros a disparu, et pareil aux États-Unis.
D'accord, mais on peut avoir quand même 100 euros, c'est des grosses coupures, enfin, ou 200 euros, tu vois. Tandis que là, PayPal, tu peux faire un virement très très important.
Tu sais qu'en Inde, ils payent maintenant les fonctionnaires. Avant, ils étaient payés en espèces. Maintenant, ils les payent en argent dématérialisé via une appli du gouvernement. Et du coup, tous les fonctionnaires de police, ils ont vu leur salaire augmenter de 10%. Parce qu'en fait, les fonctionnaires véreux ne prélevaient plus dans leur paye. Et ça, c'est un truc de fou quand même.
Mais c'est pour ça que tu vois, tu parlais des pays en voie de développement. Et je pense que c'est précisément pour ça, parce que les pays en voie de développement, c'est vraiment l'enculade à tous les coins de rue au niveau du cash, que c'est les premiers à adopter ce genre de technologie.
Mais est-ce que les petits malins ne vont pas justement trouver une crypto-monnaie, un compte bancaire parallèle, des choses pour justement créer une circulation au black, même si c'est dématérialisé? Est-ce que le black, c'est forcément lié à un truc matérialisé?
Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi les taxis parisiens, ils nous font le coup de la CB cassée. Je dis jamais. Les taxis parisiens, ils sont obligatoires d'avoir
c'est
la
taxe. Bon.
déjà qu'ils sont peu aimables et qu'on les déteste, mais en plus.
Dis maman, c'était quoi les taxis?
Non, mais ils existent. Et aujourd'hui, quand vous prenez un taxi qui est sommé, qui est obligé, normalement, par la loi, d'avoir un terminal PCB, souvent, il va vous dire qu'il est cassé. Je ne comprends pas pourquoi.
Là, c'est plus une chronique sur l'argent.
Là, c'est pour niquer la
FDP c'est pour être payé au black.
Pour pas déclarer, bien sûr.
C'est pour être payé au black, bien sûr, évidemment.
Évidemment.
Revenons à l'histoire de l'argent. Vraiment, l'histoire de l'argent. Un autre point intéressant de Sylvain, c'est en Chine, donc, qui est un des plus gros pays, qui est le pays qui est en train de se débarrasser du cash de la manière la plus impressionnante ces derniers mois. ils passent tous par WeChat. On revient aussi à une autre thématique, à une autre chronique qui avait été faite par Sylvain, je pense, sur les chatbots et sur le fait que les messageries allaient un peu tout gérer. Et aujourd'hui, les gens s'envoient, reçoivent de l'argent, passent par leur compte, etc., tout via messagerie. Parce que voilà, on parle de dématérialisation, mais ce n'est pas que scanner ta carte bleue, c'est aussi une nouvelle manière de gérer ton argent. Est-ce que... On parle aussi de Venmo, qui était une application très à la mode, qui était presque un réseau social de l'argent. Est-ce qu'il y a aussi une nouvelle manière de la dépenser maintenant que c'est intégré à ton smartphone, à
ses apps ? Pourquoi pas, puisqu'il y a eu un avant et après carte bancaire. Vous vous souvenez de l'avant carte bancaire où on mettait des pièces dans les cabines téléphoniques et on devait porter des chèques à la banque ?
J'avais
4 ans, donc non, mais ça a duré longtemps quand même.
Non, mais tu as eu ta carte bancaire à 16 ans.
Oui, non, mais en fait, je pensais pas que c'était aussi récent, entre guillemets, parce que c'est 86.
C'est très récent, ouais.
Oui, encore pas longtemps, je me suis fait payer pour un freelance, et j'étais payé en chèque. Hein. Il fallait déposer le chèque et tout le tralala.
Ouais, c'est relou.
Ça, le contre-signé et tout.
Et d'ailleurs, les chèques, c'est très peu sécurisé. Il faut voir que le chèque, il arrive à votre banque, il est vu vite fait par un stagiaire et il est embarqué. C'est-à-dire que le chèque, c'est
des ordinateurs qui les infirment, plus les stagiaires.
Non, c'est des stagiaires qui les ramassent.
Les chèques, ils sont observés que s'il y a une contestation, tu vois. Sinon, vous pouvez vraiment mettre. Moi, je m'amuse à mettre n'importe quoi et ça passe très très bien.
Tu doubles les montants.
Non, les montants sont vérifiés.
Normalement, ça devrait être l'âme.
Attendez, on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu as fait ?
Non, mais un chèque pour être signé par Mélissa alors qu'elle n'a pas la signature, elle n'est même plus dans la société, il passerait sans problème je le conteste pas. Ils n'en ont rien à foutre. La signature du chèque, ça vaut
c'est
rien.
C'est juste pour la contestation, la signature. Et pareil pour la date.
Légalement, tu peux faire un chèque sur n'importe quel papier libre.
Ouais, enfin, ça, c'est de la couille.
Bah oui,
c'est la même loi que celle qui dit oui, les flics n'ont pas le droit d'ouvrir ton coffre. Bah ouais, on parlera quand tu te fais contrôler. Ouais.
Bon, on s'est égaré. Oui, on s'est égaré. Usages du paiement, notre manière de payer aussi.
Oui, alors très intéressant en Chine puisque c'est tellement adopté cette technique de WeChat Pay là où soit tu t'envoies de la thune via l'appli, soit tu flashes des QR codes dans les magasins.
Ouais.
Donc par exemple, tu vas dans ton épicerie, t'achètes ta petite bouteille de jus de fruits et plutôt que sortir ta CB ou même faire un paiement NFC. Le commerçant va t'imprimer sur un ticket de caisse un QR code que tu vas prendre en photo et ça va te débiter ton argent.
Du papier dans l'histoire, quoi.
Bonjour la planète.
Mais oui, c'est un petit peu, il y a un côté nouvelle technologie, mais à l'ancienne, quoi. Il y a un côté jugade, comme on dit.
Mais le fait de s'envoyer de l'argent comme ça par mail, par SMS, par chat, c'est un peu la fiesta.
C'est un peu les virements, quoi. Enfin, juste sur des plateformes qui sont moins relou que nos banques respectives.
C'est vrai. 48 heures d'authentification.
Le virement était une opération pénible et c'est pour ça qu'on passait par le cash. Et du coup, le virement tel qu'on le connaît va être l'opération
de
base.
Moi, ça a complètement changé ma vie au niveau des trajets Londres-Paris que tu fais en Eurostar.
Ouais.
Les prix de l'Eurostar, c'est quelque chose d'indécent. C'est une violence sans nom. Donc, il y a un marché noir de la revente de billets qui est très importante sur Facebook. Et du coup, tu as quelqu'un en face de toi qui va te vendre un billet qui va t'envoyer en PDF par mail. Tu as très peu de confiance en lui. Lui a très peu confiance en toi. Donc, si tu lui dis « Ah mec, je t'ai fait un virement, mais il va arriver que dans 48 heures, surveille ton compte, machin, c'est la merde. » Donc, du coup, on utilise toute une flopée d'applications, TransferWise, Lydia, Pumpkin, Revolut, qui sont des nouvelles banques en ligne, pour que ce soit plus instantané et qu'il y ait des
Alors
preuves.
Alors que
en fait,
quand je t'ai vendu ma carte mère, tu m'as bien payé par virement bancaire, bâtard.
Ouais, parce que je savais pas que t'étais un petit peu au fait des nouvelles technologies de la fintech, excuse-moi
mon gars, j'ai toujours dit que le jour où j'étais SDF clochard, si jamais j'arrive pas à être contrôleur RATP ou flic, je m'équipe d'un terminal pour faire du PayPal pour pouvoir niquer les gens qui me disent j'ai pas de monnaie.
Ah putain, c'est
évidemment.
Là, c'est le SDF tellement agressif du monde.
J'aurais tenté, franchement, tu fais une chronique.
Désolé, j'ai pas de billet. J'ai un lecteur de cartes.
J'ai un iPhone 10, tu m'échapperas pas.
C'est assez, libre. Comment dire, la façon dont les gens acceptent le dématérialisé, c'est un peu un mini détecteur à con, je trouve. Et très tôt, McDo a accepté le paiement par carte bancaire à des taux très très faibles. On pouvait acheter un burger à 1 euro et le payer avec une carte bancaire. Et je trouvais ça fantastique parce qu'avant, ils disaient un montant minimum de 12 euros, tout ça.
Mais au McDo, jamais.
Parce que le montant minimum, encore une fois, dans quelques années, on dirait mais comment un truc comme ça pouvait exister.
Et aujourd'hui, il existe encore, il est bien c'est chiant. Et à l'inverse, aujourd'hui, les gens qui te font chier et avec le montant minimum ou à te dire non, il n'y a pas de paiement par carte bancaire, ce qui est inimaginable, mais ça existe encore aussi aujourd'hui en France, et bien ça. C'est plutôt des mauvaises expériences. Donc, en gros, je pense qu'on va vers un monde qui va se dématérialiser.
Je passe vraiment pour un con à Londres, moi, quand j'arrive et je prends un truc à 1 euro et puis je leur fais je suis désolé, j'ai pas d'espèce, j'ai que ma carte, tout. Ils me font quoi, c'est pas de problème. Enfin, pourquoi tu t'excuses?
C'est dommage parce que la pièce de une livre, je l'aime beaucoup.
Ouais, elle est bien.
Et ben ouais, mais elle va disparaître.
Elle est bien lourde. Quelle tristesse. Mais elle est bien.
J'aime bien.
Et il y a un débat intéressant sur les SDF.
Pour finir, Sylvain.
Comme avec l'exemple
de. Un débat intéressant sur les SDF. Mérite-t-il d'avoir un logement?
Je ne sais pas. Non, c'est enfin sur, pas sur les SDF.
L'ont-ils cherché
sur la précarité en général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin demain. Pour être, enfin, même quand tu seras précaire ou très pauvre, etc., il faudra que tu aies, comme tu dis, un terminal pour recevoir de l'argent, que tu aies un smartphone, que tu aies quelque
c'est
chose.
C'est intéressant parce que dans toutes les, startups que tu as citées, il y avait celle du Kenya qui est vachement utilisée au Kenya, qui marche sur les téléphones les plus primaires. Donc ouais.
Ça marche par texto, en fait.
C'est plutôt chouette, en fait, de se dire qu'avec un truc aussi basique qu'un 3310 et un SMS, on pourra s'envoyer et recevoir de l'argent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on le voit, même des gens qui sont dans une grande précarité, ils arrivent déjà à avoir des téléphones. C'est parce que ça devient quasiment un objet de première
nécessité. C'est survie, quoi, ouais. Carrément.
Donc ils pourront, en tout cas.
Et le Kenya est beaucoup plus civilisé que l'allusion sur les Nokia pouvait l'entendre faire. Oui. Mais il y a plein d'endroits en Afrique où la seule façon de recharger un téléphone, c'est par le solaire.
Ouais.
Et donc on a quand même cette technologie complètement folle, c'est-à-dire qu'on a des téléphones anciens avec le solaire qui font des transactions financières. Je trouve ça tellement cyberpunk.
Ouais. Ça plaît pas et trop
the grid.
À Apple.
C'est le jugad.
Et c'est des millions de gens qui font ça. Quoi. De ficelle,
ouais. C'est beau. C'est beau. Vous nous direz en tout cas sur le forum ce que vous pensez de la fin du cash. Enfin, surtout, je pense qu'on est tous pour la fin du cash, mais comment vous allez gérer et dépenser votre argent. On attaque tout de suite la seconde FAQ.
FAQ.
Alors, une question sur Facebook d'une certaine SB. Qui nous demande quel serait le moyen numérique qu'emploierait Daz afin de demander sa petite amie en mariage.
Oh putain.
Ah mais quel escroc celle-là, mais quel escroc.
Meilleur FAQ de l'histoire.
On rappelle, c'est une vraie FAQ, hein, c'était posé sur le Facebook de 404.
Putain, donc, je savais pas qu'elle était au courant que la page existait.
Donc on rappelle que t'as 12 et tendre depuis de nombreuses années.
Oui.
Attends que tu... Enfin t'as demandé en mariage d'ailleurs.
Ben, elle m'a demandé en mariage, donc je lui dis, tu m'as demandé, je t'ai dit oui, pourquoi est-ce que tu attends que je te redemande? C'est débile.
Mais Daz, toujours aussi romantique.
le romantique. C'est débile dans la phrase.
Okay, non, Google. Oui, je lui dis.
Ok, Google. Passe une chanson de Poetic Lovers.
Voulez-vous toujours lancer la lecture de ce contenu sur l'appareil, l'énorme télé?
Ah, c'est relou. Bon, laisse tomber. J'ai voulu mettre une petite ambiance romantique.
Voici Poetic Lovers sur Spotify. Ah.
C'est sur l'énorme télé, c'est bon.
Ah oui, c'est sur l'énorme télé.
Ça passe chez Fibre.
Bon, bref,
les voisins sont hyper contents. Une fiesta dans le 5e arrondissement en ce moment. Non, mais du coup, pour répondre à ta question.
Alors, quel serait le moyen numérique que tu emploierais?
Je n'ai pas compris.
Tais-toi, Google, tais-toi. Tais-toi, Dublin, code Dublin, voilà. Quel serait le moyen numérique que tu emploierais Daz pour demander ta petite amie, finalement ta petite amie en mariage?
Un moyen numérique, ça serait, donc outre la FAQ 404, je sais pas, je pense à un... les vidéos YouTube, ça a déjà été fait, les chansons, ça a déjà été fait.
Le PowerPoint aussi.
Le PowerPoint aussi, malheureusement.
QR code.
Peut-être une petite vidéo à la brute.
Ah oui,
avec du texte, tu vois, en jaune comme ça ou AJ+, là, enfin, tu vois ce genre de truc. Je suis pas sûr que ça a été fait. C'est une bonne idée, tiens. Ouais, je vais m'y atteler juste pour le fun, le challenge.
Commercialise ça très cher.
Sinon, on fait des enfants hein, pour prouver aux gens qu'on les aime. Voilà.
Petit message personnel. Voilà. Très bien. On s'arrêtera sur cette très très bonne FAQ. On attaque tout de suite la troisième chronique et c'est celle de Mélissa.
Sujet numéro 3.
Le growth hacking, une jolie appellation pour de sales manipulations.
Ah, on en parlait un tout petit peu avant l'émission, un tout petit peu durant l'émission, et on va attaquer un des gros morceaux de ce 404 d'octobre, le growth hacking.
Ça va dénoncer.
Growth hacker. Si vous n'avez pas compris de quoi je parle, restez là. Si vous avez compris, moi, c'est que vous flirtez trop sur l'internet des entrepreneurs, aka LinkedIn. LinkedIn, pour ceux qui n'ont pas écouté tous les précédents 404. J'ai découvert ce mot il y a 2 mois, un déjeuner avec un gross hacker, un mec adorable qui allait me raconter comment toucher une audience toujours plus grande. Je me dis, mais génial mec! J'avais les yeux qui brillaient, 3 ans et demi que j'essaie de faire doubler l'audience de 7.fr. J'ai un peu réussi, pas trop. La page Wikipédia en français de Growth Hacking me dit que nous pourrions parler de piratage de croissance. Mais bon, on parle tous anglais ici, au grand désespoir de Daz. Je trouve alors la définition proposée par le site La Fabrique du Net, ça commence comme ça. Le Growth Hacking intrigue. Le Growth Hacking passionne et dérange en même temps. Plus précisément, le Growth Hacking est un ensemble de techniques, ou plutôt un état d'esprit, une méthodologie dont l'objectif est la croissance rapide par tous les moyens d'un service ou d'un produit. Par tous les moyens. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Par tous les moyens.
Car grâce à Sylvain, j'ai pu entrer sur le Facebook group du Growth Hacking France. Que s'y passe-t-il? Quel est l'état d'esprit? Allais-je me trouver le moyen de doubler le trafic de Slate du jour au lendemain? Résoudrais-je les problèmes liés à la mesure de l'audience des podcasts? Mes attentes étaient grandes. Les premiers messages que j'ai lus sont... Hello les gros hackers, j'ai lancé un petit tool pour récupérer les numéros de téléphone des annonces Le Bon Coin. Pour l'instant, je ne communique pas trop dessus, mais si vous mettez que vous venez du groupe Growth Hacking France, je passerai votre demande en priorité. Smiley, j'espère que ça vous plaira. Point d'exclamation.
Commentaire. Trop bien, le start-upper. Ce qui est génial là, c'est que le mec fait de l'acquisition grâce à un outil d'acquisition. C'est vraiment, c'est très très. C'est
méta. Commentaire en dessous. Stylé ce truc, à utiliser avec modération, et si ça marche, c'est cool. C'est cool.
Alors, tu dis des vrais trucs hein, quand même. Hein.
C'est vraiment des trucs que j'ai trouvés. Hein. Notre internaute bien intentionné récupère des numéros publiés pour une raison, vendre un grille-pain, une PlayStation, un sextoy, je ne sais. Et voilà qu'il se retrouve dans la liste de Michel le bien intentionné, qui va utiliser pour faire bien autre chose. Autre cas d'étude, Hello GHF. Faut parler en acronyme, hein. On est toujours dans le monde des
startups. Ah oui, le groupe le Growth Hacker France. Ouais. Ok, GHF.
Voici mon dernier article qui explique comment j'ai boosté l'engagement avec mes visiteurs grâce à un hack super simple. Ça renvoie là à un post Medium en anglais d'un certain Nicolas Leroux, donc qui est créateur d'un
Nicolas
service
qui
s'appelle Bot Letter, un service de newsletter via Facebook. Donc là, je fais un peu de pub, nous donnant une ligne de code pour que chaque utilisateur croie que son service est créé dans le pays où cette personne réside.
Quelle enculade.
Donc le mec ment totalement sur où il se trouve dans le but. Attention, encore de l'anglais. Engage with users.
Chez leader, quand on dit engage with target, c'est pour l'éclater. Hein.
En fait, il raconte sa petite expérience. Alors, quand il a créé Botletter, il voulait qu'il ait marqué Made with love in France. Le problème, c'est que comme c'est un nomade.
Ah, c'est digital nomade.
Je vous passe le petit digital nomade. Il s'est dit, what if every user sees his home country displayed in the footer? Et si chaque utilisateur voyait le nom de son pays? Donc là, le mec, il fait un post médium hyper beau. Et toujours les mêmes commentaires que sous celui de Michel le bien intentionné plus haut. Des commentaires ravis qu'on puisse mentir aux internautes pour qu'ils préfèrent notre service.
Made with love in Kosovo.
C'est ça. Made in love in North Korea. Ah non, on voit pas. Mais attention, parce que lorsque son métier est pas tout à fait légal, il faut quand même se rassurer. Donc je trouve dans la littérature sur le growth hacking que tout growth hacker travaille consciemment ou inconsciemment, mais plus souvent consciemment, à partir d'un schéma que l'on peut résumer à partir de la matrice AAR. Vraiment, c'est AAR.
C'est vraiment l'acronyme?
Ouais. Consciemment ou inconsciemment, j'ai un peu envie de crier AAR.
Et quelle est cette matrice?
Alors, plus sérieusement, cette matrice, donc AARRR, est un acronyme, toujours un acronyme, pour acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Il s'agit seulement.
C'est la devise des comptes de concentration.
C'est un peu. Je crois que tu es plutôt un robotueur, moi. Alors,
les 4X, mais dans la vraie vie.
Normalement, le revenu est avant le référent. Hein. Je pense que.
Alors, selon ce que j'ai lu, c'est un tunnel de conversion, on appelle ça. Ni plus ni moins. Mais là encore, je suis growth hacker, donc je remarquette ce que je fais pour que ça ait l'air plus fou. C'est tout l'objet de mon métier. Autre post-médium, j'arrive au cœur de ce
qui me... Je ne sais pas ce que c'est qu'un tunnel de conversion, perso.
Mais c'est ça, c'est l'acquisition, rétention, conversion.
Tu gardes les gens.
Les différentes étapes de l'utilisateur.
Et après, tu les fais cracher. C'est ça.
Okay.
Par ailleurs, donc là, je vous cite un autre post-médium. Par ailleurs, la plupart de ces nouveaux entrepreneurs sont issus du monde du développement informatique où prévaut l'état d'esprit de hacker, entre parenthèses, hacker mindset.
Oh, la bullshit.
Du coup, je me demande sur les fiches de poste de gros hackers des grosses boîtes, est-ce qu'on lit avoir l'esprit hacker dans les qualifications demandées? Je vous en parlerai parce que je suis allée voir du coup les fiches de poste. En fait, tous ces gens qui se disent on va faire du monde une better place, parce que vraiment ils se disent ça, les gros hackers que je lis citent des grands exemples de services qu'on connaît tous aujourd'hui qui jouent au plus malin. Case study numéro 1, Airbnb. Pardon, je parle en case study comme les gros hackers du coup. Au lancement, en fait, Airbnb, ça marchait pas du tout. Ouais. Mais vraiment pas. Et donc, les mecs qui se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le site qui marche bien, c'est Craigslist. Donc, on va permettre à tous les gens qui sont sur Airbnb de poster automatiquement la petite annonce, et sur Airbnb et sur Craigslist. Comme ça, tu doubles tes chances. Mmh. Les mecs, ils ont juste hacké Craigslist, quoi. Et ils se sont dit, c'est super, ça marche, machin. Et donc, en fait, j'ai égrené les posts Facebook, les posts Medium, à lire des personnes qui se revendiquent de méthodes de hacker. Quand je tape gros hacker sur LinkedIn, 4358 profils, donc il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce métier.
Ou et je
parle, voilà, et je parle bien de plateformes aux millions, voire aux milliards d'utilisateurs pour Facebook qui s'approprient des comportements parfois illégaux, donc gratuits, pour mieux vendre des produits et qui sont ravis d'en discuter aux yeux de tous en se présentant comme des start-upers qui veulent sauver le monde quand en réalité certains pourraient rentrer dans le classement des FDP de Daz.
Daz est en train de boire des petits depuis le début de ta chronique, hein,
mais ils ont juste le langage magnifique pour cacher la forêt. Alors je me suis rendu sur un petit site français qui s'appelle grosshacking.fr et là je suis tombée sur la bible de ces gens où on parle de email automation. Je ne sais même plus parler anglais. Email Sylvain generation, email vérification, email testing, data enrichment, scrapping web automation. Je vous en passe.
Feedback loop et the bin.
C'est beau, ça brille, c'est très organisé, c'est un forum discours, ça ne vous rappelle rien.
Au moins, ils ont du goût.
Leur forum est vraiment shiny, Daz serait très, très, très impressionné. Ou pas du tout, bande de FDP, dirait-il, avec sa verve du 9-4 qu'on lui connaît. C'est juste que soudain, voler les mails des milliers d'internautes devient une bonne pratique, une good practice, comme dirait Sylvain, que l'on présente dans des magnifiques présentations PowerPoint. C'est que je lis en fait dans tous ces tips. C'est en fait tout ce que je pourrais absolument pas appliquer à Slate.fr parce que, en gros, ce serait rompre la confiance avec nos lecteurs et la CNIL serait vénère. Mais si Studio 404 faisait du gros hacking, on irait crawler les pages Facebook de nos concurrents pour récupérer leurs mails et les inviter à nous financer sur Patreon avec un simple lien et on les relancerait très 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 souvent. Regardez, les yeux de fibre trigre scintillent. On pensait qu'il était prêt à tout. En fait, il était simplement gros hacker.
Oh, très bon truc de mystère sur les gross hackers. Alors, je pense qu'on l'a dit de toutes les manières possibles. En anglais, Max, gross en français avec l'accent anglais.
Moi, j'entends gros sacker.
Moi, c'est bon, j'entends gross, genre dégueulasse en anglais. C'est le G-R-O-2-S.
Il y a un très très bon site internet de best practice de gross hacking qui s'appelle Hacker de croissance.
Hacker
de croissance.
Hacker de croissance. C'est trop beau. Et alors, je tiens à préciser que l'AM m'avait demandé de chercher des gens qui se questionnaient sur leurs pratiques.
Oui.
Des gens qui font ce métier, j'en ai pas encore trouvé.
C'est normal.
Dès que tu les critiques, les mecs bottent en touche ou
il n'y a pas d'exclus
du groupe.
Il n'y a pas d'esprit.
J'ai pas voulu
rebelle.
Tenter avec mon profil ouvert d'essayer
alors,
de hacker le truc.
J'ai une petite question.
Alors,
en faisant un petit parallèle, est-ce qu'on peut considérer que les gros hackers sont à la croissance ce que le PUA est à la séduction?
Un peu.
Ouais.
Ça met des jolis mots sur des pratiques dégueulasses.
Et je pense que beaucoup de gros hackers sont aussi des pick-up artistes.
Ouais, ouais.
je pense qu'il y en a énormément.
Double spé.
Quand tu parles d'acquisition, de rétention et tout ça, tu te dis,
pense que c'est pareil.
C'est le tunnel de conversion sexuelle.
Mais c'est des gens qui ont tellement peu de respect pour les autres et qui voient juste des chiffres changer dans leur tableau Excel.
On le rappelle, le growth hacking, c'est aussi un des nerfs de guerre des startups et de l'économie numérique. Parce qu'encore une fois, on parle de scalability, on parle encore de termes anglais, parce que le but du jeu, c'est de devenir très gros très vite.
Ouais.
Donc,
de
on va tricher et prendre des stéroïdes dans le numérique pour grossir. Arrêtez-moi si je dis des conneries. Pour grossir notre base de données d'utilisateurs ou de gens à contacter.
Pour faire de l'acquisition.
Le plus vite et le plus brutalement possible, quoi. Vraiment très vite, très fort.
En flirtant avec les frontières de l'illégalité.
C'est ça.
Ah bah là, on peut dire qu'il flirte de l'autre côté de la frontière.
Et donc, il y a énormément de. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on est dans la zone grise. On est dans.
Exactement.
C'est quoi entre l'atmosphère et l'espace? C'est la stratosphère? Il y a un truc entre les deux.
La ionosphère.
La ionosphère.
On est dans la ionosphère de la légalité.
On est dans la ionosphère.
Donc, dans la ionosphère de la légalité. Mais donc. On va parler des pratiques, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours ce côté start-up coloré avec une musique au banjo, c'est que tous les mots sont jolis. Toute l'ambiance est toujours en mode mais oui, je porte des Stan Smith, j'ai un laptop et on est fou, alors que les mecs sont des
FDEP. Hein.
Oui,
ah, mais c'est dingue, quoi.
Et puis il y a aussi ce côté de découvrir des choses magiques qui vont marcher à tous les coups. Tu sais, le truc de l'efficacité, de dire j'ai lancé ce logiciel. 3 jours plus tard, j'ai augmenté de 250% ma base de données.
Ouais.
Ça marche, c'est magique, quoi.
Commercial, ouais. Magnifique.
Fibre. Alors Fibre, est-ce que tu, comme soupçonne Mélissa, tu as les yeux qui brillent?
Alors j'ai les yeux qui brillent parce que je trouve que cette chronique est brillante.
Ta chronique, 6 sur 6.
J'ai envie de supplier Mélissa de pas quitter qualité, mais je pense au futur dividende, on en aura plus, donc bon, ça va. Ça, c'est du gros hacker. Mais sinon, pour la question du vocabulaire,
oui.
même les truands qui mettent les pieds dans le ciment de leurs victimes et les jettent dans la Seine, en gros ils se disent bon je fais ça parce qu'il faut bien nourrir ma famille, tu vois. Donc tout le monde se trouve des excuses et c'est pour ça que les FDP
ils les disent pas au monde entier. Là c'est vraiment
et facile. Alors concernant le positionnement du gros hacker, je pense vraiment que ce sont des nazes, ce sont vraiment des ringards, tu vois.
Ah ouais,
c'est parce que c'est exactement comme les mecs qui vous envoie du spam, genre faites grossir votre bite ou alors cliquez là et vous gagnerez de l'auto. Ces gens qui font ça toute la journée, ça marche un petit peu donc ils continuent et ils gagnent leur vie comme ça. Et ces mecs-là, je veux dire, faire grossir de 250% la base de données pour faire quoi ? Récupérer les numéros du Bon Coin pour faire quoi ? Sérieusement, je trouve que c'est des ambitions de minables. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui on sait très bien. Et on le voit avec Studio 404 qui vole pas très haut pourtant. Hein. Et ben, c'est non mais
qui vole pas très haut ou pas
non,
très haut.
Pas très haut et pas très haut. C'est que quand tu connais un petit peu l'internet et les usages, je veux dire, il faut être super sain. Il faut faire que des trucs, on va dire de façon saine, de façon franche, de façon normale pour que ça marche. Si tu prends une autre technique, ça ne marche pas. Le gros hacking, c'est vraiment des pilotis en brindilles. Ça ne marche pas.
Alors pilotis en brindilles, ça parle fort, fibre. Là, vraiment,
c'est une question que j'avais justement pour Mélissa qui en fait est l'antichambre de ma chronique qui suit. Est-ce qu'on peut réussir dans le web en tant que jeune pousse? Sans recourir à ces fils de pute.
C'est ça la question. Puisqu'on a l'impression que le mot-clé, c'est toujours, comme on dit, grosse, scalability, traction. Enfin,
puis il y a le côté court terme aussi. Ouais. C'est-à-dire d'aller très vite, très fort.
Ouais. Mais je crois qu'après, il peut y avoir
est-ce qu'on peut réussir sans le faire?
Je pense qu'il peut y avoir des gros hackers propres.
Mais c'est pas possible. Parce que le hacking, par définition,
non.
Ça...
Si, je pense
tu peux acheter des bases de données.
T'as des white hats et des black hats.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. On peut mettre la même grille d'analyse que sur les hackers. T'as le black hat, t'as le white hat, t'as les crackers.
Mais le white hat, c'est jamais pour grandir lui-même qui travaille. C'est pour justement combler les failles de sécurité. Donc ça voudrait dire que si tu le faisais proprement, ça serait pour pas grandir.
Je suis sûr
grandir.
Que t'as, parmi la population du web et parmi les auditeurs de qualité, des gens qui se considèrent comme des gros hackers, mais des gros hackers chevaliers blancs, quoi. Sains. Qui font les choses dans les règles, qui font pas les choses de manière intrusive, mais qui découvrent des petites techniques, des petites subtilités, des petits hacks, des petits détournements de choses qui existent pour ramener
des utilisateurs. C'est un truc qui me fait délirer en fait, parce que je me rends compte que des mecs qui payent des écoles à 8000 balles l'année découvrent la Bicrave, qui est complètement gratos au coin de la rue depuis toujours.
J'ai une technique de gros hacker, je peux vous la dire ?
Ah, t'en as eu toi ?
Ouais. Sur un de mes projets, j'ai créé un bot qui marche sur un Raspberry Pi et qui contacte les gens, ouais. C'est vrai, sur Twitter.
Comme voilà. Quoi ?
Et en plus, je dois vous dire que c'est le même handle Twitter que le compte dont je veux faire la pub, à part que j'ai transformé le L du vrai compte en I majuscule.
Oh putain. Ça, c'est un truc de gros sac.
Donc, c'est The Beautiful Wake.
The Beautiful Wake.
Beautiful
Wake. Décrit bien quel est le processus du growth hacker, c'est de se dire, j'ai découvert une technique qui, à la main, fonctionne pas mal.
Ouais.
Si je l'automatise, je le fais à grande échelle.
C'est la grande échelle.
Et je gagne du temps.
C'est là où on parle de gros hacking, quoi.
Le mass follow sur Twitter.
Oui.
Mass unfollow, c'est du gros hacking.
Bah justement, j'allais en venir à ça, puisque Mélissa parle de gros hacker pour des entreprises, mais ça nous fait penser, il y a énormément d'analogies avec évidemment notre sujet chéri qui sont les réseaux sociaux, notre manière d'être populaire ou pas sur les réseaux sociaux. Et vous en parlez dans vos différentes chroniques, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, etc., à travers des bots, des best practices, il y a des manières d'augmenter artificiellement sa popularité et donc son score, en fait, suivant des moyens qui ne sont pas forcément illégaux, mais qui sont cracra.
Ça m'a rappelé la chronique des ados de Sylvain, qui disait les ados, ils réussissent très bien sur Twitter parce qu'ils n'ont aucune race. Et vraiment, je me suis dit, c'est des futurs gros hackers, c'est fou. Hein.
Bah, ils sont des gros hackers.
C'est le terme aucune race qui était important dans la.
Mais tu vois, il y a une échelle de cracra et d'illégalité, parce que est-ce que faire du mass follow, c'est faire grimper ton audience de manière artificielle? Parce que finalement, si les gens te suivent en retour, c'est quand même qu'ils trouvent ton contenu intéressant.
Twitter interdit le mass follow.
Pourquoi? Ils te suivent en retour parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir ton follow, c'est le follow back, c'est pour augmenter ta.
Évidemment.
Moi j'ai rien contre le mass follow si tu unfollow pas derrière.
C'est en dessous du cracra.
C'est le mass unfollow back.
Achat follower, tu vois.
C'est pas le cracra, mais c'est
sur une
ambition
de...
un peu naze de fibre, je dirais, sur l'échelle.
Sur une échelle de je sors de la douche, je suis vraiment très cracra. Ouais. T'as l'achat de follower tout en haut, du coup,
oui,
le mass follow il est quand même. Il est bien
ah oui, non, mais c'est pour ça, non, mais je dis qu'il y a des choses illégales ou vraiment dégueulasses, puis t'as des choses qui sont un peu minables, comme disait Fibre, un peu. C'est des choses, des ambitions un peu nazes. Mais t'en parlais même pour les gens qui, comme toi, qui se sont créés des propres bots sur Instagram pour liker tout n'importe quoi et faire des commentaires, c'est du growth hacking.
Complètement, ouais.
Donc là-dessus, on est tous un peu coupables, du coup.
On est tous un peu des bicraveurs. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Non, mais les gros hackers sont un petit peu punis par le fait que, malheureusement, est-ce qu'il y a des gros hackers brillants qui ont fait des choses fantastiques? Moi, je pense que ces gens-là ne partagent pas leur technologie.
Non, mais attends, dans toutes les boîtes qui étaient citées, tu avais Airbnb, Dropbox, PayPal.
Hotmail.
Enfin, tu vois, tout Hotmail.
Le principe de parrainage, Dropbox a inventé le parrainage, tu sais. Tu parraines des gens et ça te fait gagner des gigaoctets. Ça, c'est considéré comme du growth hacking.
Pourquoi ?
Ah oui,
c'est bah parce que tu as instauré une technique qui te permet de faire de l'acquisition à grande échelle. C'est-à-dire un mec va parrainer 50 mecs pour avoir des gigas.
Tu laisses personne.
Ah bah c'est comme du... en fait c'est comme une pyramide de Ponzi en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, mais
tu laisses personne, tu baisses tout le monde.
Non, mais c'est comme le oui.
Tu laisses les gens se battre et trouver des victimes pour toi en fait.
Cela étant, le parrainage,
c'est pas comme Lévi à Candy Crush quoi.
Si c'est gratuit, c'est toi le rabatteur.
Ouais.
Oh putain, cette formule.
Non, si c'est payant d'ailleurs.
Si c'est gratuit, c'est toi le proxénète.
C'est toi le proxy.
C'est escalade vite. C'est toi le
proxy. Si c'est gratuit, c'est toi le proxy. Voilà.
C'est bon, on la garde.
Superbe.
Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur ce gros hacking?
Ça donne. Ça me vient bien parce que c'est parti vraiment en insulte très fort au début et puis on se rend compte qu'on l'a tous un petit peu.
Oui, voilà.
Non, mais alors justement.
T'écoutes Mélissa, tu dis les mecs, t'as envie de venir mettre le feu sur leur groupe Facebook. Y a... En plus, j'ai l'impression que, comme le dit Mélissa, c'est que les mecs se jettent des fleurs et que tout est en bois.
Moi, j'aimerais bien.
Et tout est joli, quoi. Alors
pour évaluer, en fait, le compas moral de ces gens, j'aimerais bien.
Ah, mais tu l'as dans le compas, là.
Sur ce groupe-là, leur demander ce qu'ils pensent, en fait, des scams nigériens, tu vois, des brouteurs de Côte d'Ivoire et tous ces gars-là qui
te diront que ça n'a rien à voir.
Parce que c'est quand même les mêmes techniques de fist up, en fait.
Non, parce qu'en fait, les mails qu'on envoie, c'est que du B2B. Et si tu lis bien le truc de la CNIL, alors le B2B, on a le droit, tu vois. On a le droit à un premier contact et pas un deuxième si le mec a pas opt-out, tu vois. T'inquiète que les mecs, ils ont la réponse.
Ils savent, ils ont étudié les conditions.
Non, mais surtout, comme l'ami Mélissa, pardon, dans sa chronique, il y a tellement de définitions, genre complètement vernies, lasurées, jolies, des acronymes, des anglicismes, etc. pour maquiller tout ça. C'est fascinant.
Ce matin, il y a un mec qui m'a appelé sur mon téléphone portable, que vraiment je donne à personne, enfin il est sur mes cartes, mais je donne à des.
Tu donnes à tout le monde.
Non, mais c'est un agent immobilier.
Fibre, il vient de se rendre compte de son erreur. Ah bah oui, merde, c'est bon, j'ai rien dit.
Non, mais je donne sur des cartes, donc il n'est pas sur un annuaire. Je donne, c'est un agent immobilier, il me dit, vous cherchez un appartement. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous achète un appartement ou je vous loue un appartement? Vous avez obtenu mon téléphone illégalement. Je veux dire, à la base, on peut pas faire affaire ensemble. Je veux dire, c'est ça.
L'agent immobilier à ça?
Non, mais je vous en tiens par rigueur. Voilà. C'est quoi ce bruit?
Bon. Je peux en aller là.
Ouais, ça a fait un blim là, non?
C'est la Google Home qui a plus de batterie.
Toujours est-il que. Non, ça marche sur le secteur. Toujours est-il que comment voulez-vous bâtir un business sain sur des pratiques qui sont illégales?
Mais la question, c'est est-ce que tous les business doivent être sains?
Je vous pose la question. Airbnb sont sains.
Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce qu'on a une jeune pousse qui ne s'est pas adonnée à cette saloperie et qui a réussi à croître
Google
suffisamment? Je ne pense pas.
Regarde, ouais, non, mais Google, ils étaient les premiers.
Franchement, est-ce que le community management, ce n'est pas une forme de growth hacking? Créer de l'engagement en disant combien de carrés dans ce carré, oui, de quelle couleur est la robe.
Ce community management là, oui, je suis d'accord. Oui,
c'est tac toi si t'es ta belle Marie.
Ouais.
Et on va réagir à tous les trending topics. Ouais.
Ouais. Non, mais c'est du gros hacking.
C'est vrai que la frontière est assez ténue.
Non, la frontière, elle est très claire. C'est la frontière de la loi. Dès que tu. La technique du bon coin, c'est quelque chose qui est interdit par la CNIL. Donc là, la frontière, elle est super claire. Genre, le SEM, il peut dire n'importe quoi. Tant qu'il nie pas l'existence des chambres à gaz, il est dans la légalité. Non, mais c'est vrai. C'est la seule chose qu'on n'a pas le droit de dire en France.
À mon grand désarroi. Mais bon, c'est bon.
Ah bah, il y a une expression, on peut en parler. Hein.
Non, mais alors toi, la limite, c'est-à-dire que les brindilles sur pilotis, tu veux bien en construire, les brindilles, pour toi, c'est l'illégalité. Mais non. Ce qui se fait dans la légalité, ça passe.
Bah oui.
Même si c'est des choses bien craintes, quoi.
Mais Fibre n'a pas d'éthique. Okay. Fibre est dans la légalité.
C'est pas une question d'éthique, c'est une question de morale.
Non, mais la légalité, c'est la frontière. Après, si vous aimez vivre du côté de l'Allemagne, bah, vous vous rapprochez de la frontière. Il y a des gens qui aiment bien être loin de l'Allemagne.
Alors,
c'est
je vais te donner une technique de growth hacking, Fibre, et tu vas me dire si c'est des brindilles ou si c'est OK. Oui. Donc, dans un contexte B2B, c'est-à-dire que dans un contexte B2B, il n'y a pas d'opt-in. Tu peux envoyer des mails à n'importe qui sur des adresses pro.
Oui.
Sur LinkedIn, il y a une technique. Tu vas dans ton truc de contact, t'affiches en mode répertoire, et là, tu as un bouton pour extraire toutes les adresses mails de tes contacts LinkedIn.
Oui.
Si tu leur fais un mailing à tous ces gens-là pour leur proposer ton service, ton application avec un lien vers l'appli, c'est légal. Est-ce que pour toi, c'est propre? Est-ce que c'est des brindilles ou est-ce que c'est des pilotis bien solides?
Si je reçois ce mail, c'est une personne que j'ai ajoutée sur LinkedIn.
Okay.
Donc je ne suis pas choqué.
Okay.
Voilà.
Tu choisis les gens que tu rajoutes sur LinkedIn, toi?
Non, en fait, j'ajoute tout le monde. j'ajoute tout le monde.
C'est comme ces cartes de visite. Ah bah en fait, je donne des cartes de visite.
Non, mais j'ajoute tout le monde.
J'ai aucune race.
J'ajoute tout le monde aussi par growth hacking, parce que c'est une technique growth hacking. J'ajoute tout le monde sur LinkedIn. Et effectivement, je me suis fait baiser, mais c'est un peu de ma faute. C'est un peu comme si j'avais donné ma carte de visite à tout le monde.
Oui, d'accord.
mais pas des agents immobiliers.
Okay. C'est un gros sac qui est rempli son. Non, mais Mélissa a totalement raison. La dernière phrase de la chronique de Mélissa, c'était que Fibre n'est pas quelqu'un qui est prêt à tout, c'est juste un gros sac.
Ouais, c'est ça, voilà, ce sera la conclusion.
Bon, alors on s'arrête là et on attaque tout de suite la dernière FAQ.
FAQ.
Vous allez rire, la troisième FAQ est totalement LinkedIn compliant. Donc Thomas Biassi, ce cher Cosmoflash, qui est un des éminents membres de notre communauté, nous demande si sur LinkedIn, est-ce que c'est OK pour draguer ?
Oula.
Voilà, oh, c'est marrant, tout le monde est là, oula, la question sensible, question sensible.
Bah, est-ce que au travail c'est OK pour draguer ? Déjà, c'est la première question.
La plupart des rencontres se font sur le lieu de travail.
Oui, mais d'égal à égal, d'employé à employé.
Non, pourquoi pas.
Cadre à cadre, il n'y a pas de lien hiérarchique, sinon c'est la merde. Et c'est pas Hollywood qui dira le contraire avec ce qui se passe en ce moment. Donc, moi je dirais oui, mais attention, pas si c'est toi qui es en position d'offreur d'emploi et que la target est une personne qui te contacte pour avoir un emploi.
Waouh, tout ce cadre extrêmement précis de la part de Daz.
C'est la CNIL, les gars, désolé.
Donc tu as le droit de draguer si tu sens que ça peut pas te revenir à la gueule.
Il faut être prudent. Car la société est changeante.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui a un avis Fibre. Draguer gros, sur LinkedIn, clic.
Gros non.
Comment ça gros?
Un non ferme et
un gros non. Un gros non, ok. Voilà. Je croyais que t'allais dire les gros non. J'étais là, genre, non, c'est.
Non, depuis que le mec il perd des kilos.
T'as perdu du poids, la grossophobie, elle est un peu hard quand même.
Non, aucune grossophobie. En plus, malheureusement, je pèse encore 86 kilos. Mais non, parce que, comme l'a dit Daz, effectivement, LinkedIn, c'est un lieu où vraiment professionnel. Et la loi et l'usage actuel fait en sorte qu'on n'a pas de ce type de relation.
Vous me dites qu'il y a une législation différente sur LinkedIn que sur Facebook ou sur Instagram.
En fait, le problème, c'est que quand tu approches quelqu'un sur LinkedIn, tu es dans un milieu professionnel. C'est exactement.
Oui, mais ça c'est ton ressenti. Mais imagine qu'est-ce qui nous empêche de hacker l'usage d'un.
Qu'est-ce qui nous empêche de mettre une annonce à la NPE et en fait de draguer les personnes qui vont y répondre? C'est super grave. LinkedIn, c'est une NPE privée. Donc, il ne faut pas le faire. Je dis
faut
attention.
Pas l'accord quand tu es en position d'offreur d'emploi.
J'entends l'argument de Fibre. Juste pour un éclaircissement, ce n'est pas illégal.
C'est immoral.
Je vous rappelle que Mélissa a dragué sur Spotify.
Alors justement, du coup, oui.
Pour Mélissa, c'est un grand oui. Voilà.
Aucun problème. Effectivement, le truc souligné par Daz, la question de la hiérarchie.
La prudence.
Vaut mieux pas, hein, clairement, parce que ça peut devenir harcèlement, machin, tout ça. Mm-hmm. Mais si les gens ne se connaissent pas, ou se connaissent un peu, mais pas trop.
D'accord. Donc tant qu'il n'y a pas une offre d'emploi en jeu. C'est jouable.
Non, mais même pas. Il peut y avoir du networking, il peut y avoir des relations statutaires différentes dans une même entreprise. Il faut absolument pas le faire. C'est un semi-lieu de travail.
Mais t'es pas que avec tes collègues.
T'as des amis sur LinkedIn?
Non, mais moi, j'ai tout et n'importe quoi sur LinkedIn.
Tout n'importe quoi, en fait.
Hein. Ouais. En plus, on va surtout sur LinkedIn, nous, pour troller. Donc, à la limite.
Copains d'avant, c'est très vos amis de classe. Facebook c'est de tout et LinkedIn c'est très professionnel.
C'est le seul mec avec un compte copain avant.
Non,
je crois que j'en ai un aussi.
J'en ai pas sur copain avant, mais c'est pour vous dire que LinkedIn c'est hyper connoté travail. Si vous, il y a tellement d'endroits pour le faire, le faites pas là.
La rue par exemple.
Si vous êtes courtois, tentez votre chance là.
Moi je dis.
Quand le mec dit hey, mademoiselle, c'est poli, c'est courtois.
Draguer, oui. Harceler, non. Abus de pouvoir, non. Être un gros lourd, non. Ou une grosse lourde.
Ouais, mais tout ça, ça peut rentrer dans la définition de draguer.
Non, moi je pense que draguer c'est ok, mais qu'il y a très peu de monde qui sait la définition.
Faudrait demander au pick-up artiste.
Ah, absolument.
Ça sonnerait comme un challenge. Car je vous rappelle qu'il y a un des channels Discord de notre communauté qui est le plus actif, qui parle beaucoup de drague. Et je vois Sam qui rigole derrière, parce que je pense que Sam traîne sur ce Discord. Je vous invite à y aller. Je suis sûr que des gens, pour le challenge ou la beauté du geste, ont essayé de pécho en disant « Voulez-vous faire partie de mon réseau professionnel ?» Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique avec Daz.
Sujet numéro 4.
Mieux vaut des regrets que des remords. Like, si t'es d'accord.
Alors Daz.
Cette chronique.
Un sujet donc qui a été complètement introduit par Mélissa, je vous le rappelle. Sa chronique ne servait que d'introduction à la mienne.
Oh là 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 là.
Vas-y, acteur studio là.
Quel respect.
Growth hacking.
Un article sorti dans le Guardian évoque le cas de Justin Rosenstein. Vous ne le connaissez pas, vous utilisez pourtant une de ses créations à tout bout de champ. Justin Rosenstein est l'un des inventeurs du bouton like de Facebook. Je ne le connaissais pas non plus, mais ce type ajoute de l'eau au moulin de ma théorie qui stipule que rien, non décidément, rien de bon ne sort jamais des Justin. Bieber, Bridou, Long, Rosenstein, Théroux, Timberlake, Trudeau, allez-y, vous pouvez vérifier.
Oh, Trudeau
Timberlake, Théroux, merde.
Trop facile, beaucoup trop facile. Ouais, quasiment 10 ans après ce travail, Justin donc nous explique qu'en fait, son invention précipite l'humanité à sa perte, au calme. Et on ne peut pas nier que depuis que Justin et son équipe ont poussé cette fonctionnalité, le monde a en effet évolué. On parle désormais d'économie de l'attention, Fibre Tigre vous expliquait comment l'a hacké en février. On parle d'addiction, Sylvain démontait l'étude de Gene Twenge le mois dernier. On évoque une économie du like qui permet à des nouveaux acteurs de vivre de leur contenu en prenant à contre-pied le monde des annonceurs. On parle d'une éternelle attente du feedback positif. Bref, tout le monde s'accorde à dire que le bouton like a changé réellement le monde. L'achat récent, et là encore une fois, on ne peut pas faire plus récent puisque c'était hier, hein, par Facebook de l'application de feedback positif TBH, principalement utilisée par les ados aux US, est encore une preuve flagrante de la bisounoursisation du monde. Pour moi, c'était ça le problème, mais apparemment non. C'est pas ça que Justin Rosenstein veut dénoncer. Lui, Justin, il nous dit « Tout le monde est distrait tout le temps. » Parce que selon lui, outre le bisounoursisme, le mal principal qui a émergé est ce que les Américains nomment « continuous partial attention ».
Wow.
Voilà, nous au Studio 404, on est un peu comme des Américains qui auraient réussi dans la vie, alors on appellera ça la FAP, pour faute d'attention permanente. La FAP serait présente parce que tout être humain muni d'un appareil connecté à Internet aurait tendance à accorder une trop grande part de son attention à l'appareil en question au détriment de tout le reste. Le like et tous les autres mécanismes associés nous conduisant à attendre sans fin des retours et des réactions, comme le dernier des junkies en pleine descente attendrait son dealer à miner le montant. Tout ceci, évidemment, au détriment de la vie, la vraie.
Instant vieux con.
Celle où l'on fabrique des moulins à aubes avec du balsa et deux branches avant de le poser dans un ruisseau et de contempler notre création en souriant. Ensuite, on réajuste notre béret et on déguste une bonne tranche de jambon enveloppée dans un torchon fabriqué en France. Avant le please RT, il y avait le please Erta.
Waouh !
Ça, c'est l'âme qui me l'a soufflé, quand même. Je tiens à dire que, niveau communicant, c'est pas le dernier, lui. Alors, pour contrer ça, Justin, lui, il a pris des mesures. Il a modifié son OS pour bloquer Reddit. Il a fermé son compte Snapchat, bon, ça on peut le comprendre. Il a activé le contrôle parental sur son smartphone pour s'empêcher de télécharger des applications. Et il a mis en place des limites quant à l'utilisation de Facebook. Les plus malins lâcheront un « Ouf, il lui reste Twitter !» Mais là n'est pas le propos, et vous êtes des junkies. Le propos en fait, que moi je veux souligner, c'est qu'on constate en fait que Justin est au beau milieu de ce que moi j'ai appelé une Boromir. Une Boromir, donc du nom de ce personnage du Seigneur des Anneaux, vous savez, le membre de la communauté qui, à un moment donné, veut voler l'anneau à Frodon et qui regrette. Vous l'avez ? Voilà. Justin nous fait une Boromir. Il fait d'abord nimp, et ensuite il se prend la tête dans les mains en disant « Ah, ben, par Saint-Georges, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans le milieu, on appelle ça aussi une Anakin. Ou n'importe quel second rôle tenu par un blanc à qui on fait confiance beaucoup trop tôt. Justin s'en rend compte maintenant, mieux vaut tard que jamais. Nous, on parlait déjà politesse 2.0 et phone stacking au resto il y a 4 ans. Alors, ces histoires de défaut d'attention ne datent pas d'aujourd'hui. Mais que voulez-vous, ma bonne dame ? Les prophètes doivent composer avec l'idée de prêcher dans le désert le temps que la plèbe se mette à niveau. Mais qu'est-ce qui motive ce move de Justin de carrément se couper de la tech ? Est-ce que c'est pas un peu radical, voire suspect ? Justin ne devrait-il pas être fiché S ? Je veux dire, moi, quand je rate un plat, je jette pas mon four par la fenêtre en me jurant de ne plus jamais manger un plat chaud. Eh bien, si l'on en croit Tristan Harris, un ancien employé de Google qui réfléchit un peu comme Justin, et qui a d'ailleurs été surnommé par The Atlantic ce truc qu'a la Silicon Valley qui s'approche le plus d'une conscience. Ouais. On devrait tous jeter nos fours dès maintenant parce que, selon Tristan Harris, tous nos esprits peuvent être détournés. Nos choix ne sont pas aussi libres que nous le pensons. Le mec ayant bossé pour Google, j'ai plutôt tendance à le croire. Et ceci, même si la phrase ressemble plus à Duzas featuring Kenny Arcana. Le like de FB serait donc un outil parmi une myriade d'autres pour permettre d'orienter la façon de penser et d'interagir avec les utilisateurs tout en leur faisant croire qu'ils sont en total contrôle. Et c'est de ce set d'outils que les ex-insiders nous disent de nous méfier, après avoir contribué à leur création dans les locaux lumineux de leurs entreprises respectives. Entre deux micro-siestes réparatrices, Tristan et Justin ont joué peut-être au baby-foot avec d'autres collègues, ils ont fait un ride en trottinette autour du campus pour déguster des muffins au quinoa, et à aucun moment, alors qu'ils relisaient les design notes de leurs applications, il leur est venu à l'esprit que ce qu'ils faisaient pouvait s'avérer être une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Mélissa dans mon introduction, dans ce monde des startups...
Quel connard.
Appropriation
c'est du gros hacking, je t'ai dit. Les conséquences sociétales néfastes des apps qu'on développe en mode startup, on s'en branle. On va pas blâmer les individus, bien sûr, le système entier fonctionne comme ça. Ceux qui prendraient le temps de considérer ces impacts se feraient sûrement prendre leurs idées par des moins humanistes qu'eux, parce que dans la tech, comme le disait Expression Directe, les crapuleux sont rarement scrupuleux. Et c'est ça le vrai problème. En vrai, le FAP, à vrai dire, on en a rien à foutre. La share economy, la like economy, la gig economy, le positive feedback loop, le airspace, la drague formatée par Tinder, le cyberbullying, l'ubérisation, le gros hacking, tous ces phénomènes qui pop les uns derrière les autres, finalement. Et là, je suis en train de me dire que ma transition est un peu merdique, mais c'est pas grave. J'ai une métaphore.
Ah bon ?
Non, mais j'ai une métaphore pour qualifier ces trucs-là. Donc, je dois par contre demander à mes co-chroniqueurs quel film ils préfèrent entre Starship Troopers et Pacific Rim.
Starship Troopers.
Starship Troopers a une critique sociale qui colle plus à 404.
Starship Troopers, mais je préfère la métaphore de Pacific Rim.
Je les ai pas vus.
Ok, donc j'ai deux Starship Troopers et un Pacific Rim, je suis désolé. Donc tous ces trucs que je viens de citer, c'est un peu comme les météores qui frappent l'humanité dans Starship Troopers. Et dans Starship Troopers, l'humanité, à un moment, elle est saoulée de ouf de voir ses villes détruites toutes les 3 minutes par des météores. Alors elle envoie des soldats sur Klendatu pour aller niquer les cafards, parce que c'est eux qui gèrent les turbo-lasers qui tirent sur les astéroïdes pour nous les envoyer dans la gueule.
Là, tu donnes pas envie à Mélissa de voir ce film, pourtant il est extraordinaire.
Alors dans le cas présent, les cafards géants, en fait, c'est l'esprit start-up de la Silicon Valley, qui ne pense qu'à disrupter la société, parce que trois golemons dans un garage climatisé, mais avec du cachet, se sont dit que ça serait bien de recréer un système féodal pour leur éviter de sortir sous la pluie, acheter leur mocalato, chicolata, cinnamon à la con. La faute à ces maximes débiles du genre « mieux vaut avoir des remords que des regrets ». Ouais. En suivant l'enseignement du film qu'on a cité plus haut, il devrait normalement arriver un moment où l'humanité tout entière se révolte et décide d'aller à San Francisco pour mettre fin à cette mongolerie. La seule question qui reste en suspens, c'est juste de savoir si du coup on y va en Uber ou pas.
C'est la fin de la chronique de Daz. Et j'ai une question du coup.
Qu'avez-vous compris ?
Je t'écoute.
Du coup, quel était le sujet de la chronique Daz ? Exactement.
Le sujet de la
chronique. Attends. Non, mais... Avant que Daz réponde, okay. Je pose la question à tes petits collègues.
Parce que ça a été le sujet sur Slack, justement, toute la journée.
C'était le débat. Du coup, on va débattre de quoi ?
Les conséquences du like sur l'humanité.
Ça, c'est la réponse de Mélissa.
Ensuite... C'est le premier sujet, effectivement.
Le premier sujet. Il y en a 164. Pour moi, c'est une critique de l'esprit start-up et de la disruption sans se soucier des conséquences
voilà,
de la
société. Sylvain. Et Fibre
Same que Sylvain.
Ils ont compris.
Bah, parce qu'ils ont relu ta chronique 6 fois et nos débats.
En même temps, c'est autant de fois que je l'ai réécrite. Mais oui, en fait, je réexplique la démarche.
Technique et scientifique.
Très beau freestyle.
Le bouton like et les conséquences du bouton like, on sait très bien ce que ça a fait. Donc, je voulais pas faire un exposé là-dessus.
Tu l'as fait.
Oui, mais enfin, je me suis servi d'opener, mais en fait, c'était un cheval de Troie pour pouvoir pousser le vrai sujet, à savoir, et c'est pour ça que la chronique de Mélissa sur le gros hacking s'enchaînait parfaitement avec la mienne, même si elle était avant. C'est précisément pour démontrer que, de la même manière que les gros hackers ont pas l'impression d'être des gros enculés quand ils font leur truc, parce que, je sais pas, ils se persuadent entre eux que ce qu'ils font, c'est normal. C'est peut-être pas noble, mais c'est normal. La Silicon Valley, notamment sur tout ce qui est start-up et web app et dev, etc., fonctionne avec le même point de vue, c'est-à-dire on fait un truc dans notre coin. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est retenir les utilisateurs, c'est les engager, justement. Et tant pis si pour faire ça, on doit faire un peu n'importe quoi.
Ok.
Ça veut dire que c'est des gens qui ne mesurent pas les conséquences sur long terme. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de les mesurer ? Est-ce qu'ils auraient pu deviner que le like aurait cet effet sur la société ?
Oui, parce que justement, dans la...
Tu pensais vraiment qu'en 2007, ouais, on pensait que le like allait changer la face d'une élection présidentielle ?
Alors, peut-être pas de changer la face d'une élection présidentielle, aussi bien pour le like que même pour Twitter,
ouais,
mais simplement se dire que le like allait garder captifs les utilisateurs et les plonger dans une attente de feedback positif permanent, oui, ça, clairement. D'ailleurs, le bouton s'appelait Awesome au départ.
Je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous raconter une vraie anecdote. J'ai rencontré quelqu'un.
Ah, pour une fois que tu racontes une vraie anecdote, Fibre, parce que
là, je vais raconter des conneries.
On doit vous le dire, chers auditeurs, depuis 4 ans, Fibre m'étonne.
Je suis un auteur de fiction, les journalistes sont à ma gauche. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe de faire les algorithmes de reconnaissance des écritures sur les enveloppes de la Poste.
Ouais.
Aujourd'hui, combien de personnes à la Poste regardent les enveloppes qui ont été
mal écrites ?
Combien, après vous ?
Comme pour l'échec.
Combien ?
Beaucoup trop.
15%.
Non, mais ouais. Un chiffre.
Bon. Mais il y a combien de personnes?
Alors, il y a 5000 fonctionnaires de la Poste qui, tous les jours, regardent les enveloppes que leurs ordinateurs ne comprennent pas.
Dans toute la France?
Dans toute la France.
C'est pas beaucoup.
Ils sont tous au même endroit.
5000 mecs qui regardent juste les enveloppes mal orthographiées.
C'est leur métier. Ils les regardent et ils les retapent au clavier.
Sur LinkedIn.
C'est des salariés de la Poste ou voilà. C'est des mecs en Pologne ou en Irshore?
C'est des salariés de la Poste, français, monsieur. Et justement, cette personne-là, il me dit, voilà, Fibre, j'ai optimisé l'algorithme de 10%. Est-ce que je le donne ou pas? Si je le donne, il y a vachement moins de mecs qui vont faire un travail à la con. Mais si je le donne, il y a 500 personnes qui vont être virées.
C'est très bien qu'on ne vire pas des fonctionnaires.
Je sais pas.
Ils ont discuté avec nos grands-mères.
Et ça lui posait un vrai problème. Et je pense que toutes les personnes qui disruptent, alors après, il y a une mentalité américaine, une mentalité européenne, mais ouais, les mentalités européennes, ils se posent quand même la question. Ils se disent, et on ne sait pas. Et
ils se posent la question parce que tu l'as dit.
Les Américains, ils disent, let's hope for the best. Espérons que ça
discute
les élections présidentielles plutôt pour
Hillary Clinton. Je pense qu'on a battu notre quota d'anglicisme et d'expression anglaise dans cette émission.
Le cas que tu cites est super intéressant et pour moi ça illustre parfaitement le truc, c'est que tu te poserais, enfin ton collègue se pose, ton ami ouais. Et peut-être collègue parce que tu lui as filé une carte.
Peut-être que je l'ai inventé. Ouais.
Se poserait la question hypothétiquement s'il existait en tant que français à la Poste, si ce mec-là
imaginaire
mais toujours français, si ce mec-là imaginaire était imaginaire aux États-Unis, on sait très bien quelle serait la réponse.
Ça va trop loin. Soit-il la FDP imaginaire ou.
Non, mais tu sais très bien que aux États-Unis, on se poserait pas ce genre de questions, on s'en fout.
Aux États-Unis, je sais pas, mais dans la Silicon Valley, en tout cas, effectivement, il y a enfin, dans cet état d'esprit start-up qui est critiqué par beaucoup de penseurs d'ailleurs. C'est justement cette bulle où les mecs sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans la vraie société, quoi.
Non, mais après, les trois mecs qui sont dans leur garage, là, donc ils créent un truc.
Un système féodal, oui.
Pourquoi un système féodal?
Non, mais
pour pas avoir à sortir sous la pluie, donc
certainement. Non, mais attends, il crée le like. Tu vois à un moment, c'est Mark Zuckerberg derrière qui dit putain, on le met partout et c'est le truc d'engagement et genre on te met 12 motifs dessus, enfin la stratégie de croissance.
Non, le mec était déjà salarié de Facebook.
Non, bien sûr, mais.
Il était dans une des teams de Facebook et sa tâche à lui c'était de créer le bouton like. Et là où.
Après, le bouton like, c'est pas Facebook qui a inventé le bouton like ou les pouces bleus ou le plus ou le j'aime.
C'est un peu
après aussi,
tu peux aller sur Flickr, tu peux aller.
YouTube, il y avait.
Bah oui.
Comment s'appelait ce site internet
Friendster, t'avais.
Le truc où on votait pour les bonnes réponses avant Reddit pour mettre les bonnes réponses en haut là.
Quora ah.
Non, avant. Dig.
C'était Dig, ouais.
Dig. Enfin bon, bref, ils l'ont pas inventé sauf que chez eux. C'est aussi ça un des débats, c'est que chez eux, chez Facebook, ça a pris une dimension gigantesque parce que le site a pris une dimension gigantesque. Donc, est-ce que les mecs sont des petits connards irresponsables ou est-ce que c'est juste qu'ils étaient assis sur un truc historique?
Après, est-ce que les gars n'ont pas été tasqués avec la tâche principale de faire en sorte que l'utilisateur reste plus longtemps
sur mais comme tous les autres mecs les mecs qui ont designé Flickr ou les gens qui te disent abonne-toi à mon magazine pendant 12 mois et.
Non, mais
et
ça te coûtera moins cher. À un moment donné où t'arrives en fait à la limite de ce que peut faire une personne sur ta plateforme en disant bon, bah putain, là, je suis désolé, le mec il a déjà scrollé son truc 52 fois, machin, j'ai vraiment plus rien pour que naturellement le mec reste. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu tombes dans la fille de puterie.
Oui, mais
là, tu
est-ce
vois.
Est-ce que c'est propre aux startups ou pas? Est-ce que c'est propre aux startups?
Après,
est-ce que les cartes de fidélité dans les restaurants, au bout de 12 fois que tu viens dans ton kebab, t'as un kebab gratos?
Bah, prenons.
Parce que c'est pas sûr.
Il suffit de prendre l'exemple des médias, puisque finalement la bataille c'est la même, c'est celle de l'attention.
Ouais.
Les médias aussi, ils ont intérêt à ce que les mecs reviennent, à ce que les mecs restent plus longtemps, l'abonnement. Etc., etc. Donc t'as l'abonnement, t'as je sais pas.
Moi, mon père, il s'abonnait à un magazine juste pour avoir les cadeaux. C'est vrai, hein.
Je regarde la lampe solaire, là. La station météo.
Ouais, la télé.
Les bottes fourrées.
La mini télé magnétoscope.
Après, dans le garage, il y a trois personnes. Mais il y a quoi? Il y a un tech, un marketeur et un financier. Et c'est un peu la TNT, tu vois. Tous les trois ensemble, ils sont.
Y a... Tu le dis toi-même.
Non, mais
tu les mélanges.
Non, parce que il y a. Enfin, je veux dire.
C'est très instable.
Voilà, il y a aussi cette volonté de pas avoir de race ou de prendre des risques. Elle est. Je dirais même pas trop côté financier, parce que les financiers, ils aiment pas trop prendre des risques. C'est plutôt le marketing qui drive de façon un peu insensée les choses. Le technicien et le financier, ils rendent ça possible parce qu'ils sont pris dans la folie. Donc il y a une alliance de compétences.
Pourquoi est-ce que, par exemple, on s'accorde à dire que les plombiers sont des escrocs, que les garagistes sont des connards parce qu'ils essaient de nous entuber? Pourquoi est-ce que, je sais pas,
parce que
par quel miracle, en fait, le dev commerce. ou le tech d'une start-up, lui, il passe au-dessus de ça, tu vois, il passe.
Disons que le plombier, je pense que t'es dans la souffrance totale parce que t'as une fuite énorme chez toi, et en plus, le mec t'arnaque. Tandis que le mec qui est start-up,
t'es
pas dans la souffrance, oui.
Donc t'es le produit.
Et c'est pas désolé.
Il y a un truc à soulever qui est intéressant.
On a tout soulevé, là.
C'est qu'il y a quand même une méthodologie propre à la. aux startups de la tech, quoi, aux services en ligne, mm-hmm. qui est une méthode où avant, quand tu veux lancer une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit, un nouveau service, tu vas pas faire à la manière un petit peu traditionnelle, tu fais une étude sur 3 mois avec des focus group, tu testes, tu machin. Non, tu vas plutôt faire un prototype, balancer le truc en ligne le plus rapidement possible et mesurer dans un très très court terme si cette idée elle marche versus une autre.
Et même pour préciser, tu vas prototyper comme une industrie normale, sauf que ce prototype, il est public.
Il est public, ouais. il est surtout tout de suite utilisable par un utilisateur, ce qu'on appelle le produit minimum viable, le MVP, le minimum viable product. Et du coup, tu vas mesurer sur court terme, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, et tu vas dire, ben, allez, il y a 10 000 utilisateurs qui l'ont essayé, il y a 70% qui reviennent dessus parce qu'ils aiment bien, et il y a 30% qui en plus se sont inscrits au service parce que machin.
Mais alors,
ça c'est bon, on a converti, du coup on l'adopte et on y va. Mais du coup t'as pas fait d'études, t'as pas réfléchi à l'impact sur la société,
mais
t'as pas réfléchi
ton étude, à ce que ça dire aussi post launch.
Mais non, parce alors, que tu vas alors, question, pas question, que ton produit
question parce que faisons une métaphore foireuse, Daz.
Vas-y, je te donne
entre un mammifère et un crustacé, qu'est-ce qui se passe?
Entre un mammifère et un crustacé.
Le mammifère, son squelette est rigide, mais autour il y a de la chair. Le crustacé, il y a de la chair à l'intérieur, autour il y a une coque rigide.
Donc c'est un exosquelette, oui.
Voilà.
Ok.
Est-ce que c'est pas pareil que ce que vous venez de raconter?
Alors,
je vais l'envoyer loin. Donc d'un côté, tu fais plein d'études pendant des années. D'un coup, tu sors un produit qui a pris des années, donc qui est fini, figé quasiment.
Ouais.
Et l'autre côté, tu sors un produit immédiat, mais qui ensuite subit des études post-launch et qui est réitéré, qui évolue.
Ouais.
Et du coup, quelle est la meilleure solution?
Ça dépend. Le trilobit, il n'a pas changé depuis 300 millions d'années.
Le trilobit, c'est l'ancienne industrie que tu défends.
Ouais.
Et alors que
l'homme baise la terre. Ouais.
Voilà.
S'il était resté à l'état de tétard, on aurait pas de ce problème.
Bah ouais. Tu vois, le problème, c'est que si t'as un accident avec ton trilobite, et quand il casse sa carapace, il est mort.
Pour répondre à ta question.
Un homme, il se déchire les muscles, mais en même temps, ça repousse derrière.
Pour répondre à ta question,
D'un côté, vous voyez ce que je veux dire? Tu prototypes, d'un coup, tu sors un truc qui est figé à mort, et de l'autre côté, tu sors, et après, tu prototypes,
Toutes les sociétés qui ont marché, Google, Facebook, Snapchat, sont les sociétés qui ont fait cette technique-là. On lance et on regarde.
Donc la société, donc ce sont des mammifères.
C'est l'agilité.
Ouais. C'est agile, voilà.
C'est ça.
Mais tu veux qu'on parle de l'agilité et du Scrum? Tu veux vraiment qu'on parle de ça tout de suite?
Je pense que
de ce que les gens en pensent.
Qu'est-ce qui se passe, Daz, quand tu as prévu pendant des années de sortir une télé avec des coins ronds et que t'as lancé toutes tes études qui sont foireuses du coup et que t'as acheté tes pièces, tes machins, que t'as mis tous tes œufs dans le même panier, qu'au bout de 6 ans tu sors ta télé ou ton mini disque, tiens, pas au hasard, t'es ken. Tu peux plus le faire réitérer, le bouger et t'es nickel.
Normalement, si tes études sont relativement bien faites par des gens assez compétents, tu peux pivoter en cours de route en fait, sans faire de testing à grande échelle.
Est-ce que finalement le mieux ce serait pas un modèle hybride où on serait des mammifères avec un exosquelette qu'on pourrait faire évoluer?
Des aliens, c'est la merde. C'est
des
la
robots,
grosse merde.
Comme dans Matrix.
Il faut pas sous-estimer aussi l'impact des buzzwords. C'est-à-dire que quand on a créé la locomotive, je pense pas qu'il y ait des gens qui disaient bon, il y a un truc qui va être hyper à la mode, ça va être les objets roulants sur des rails. Vous allez voir, il va en avoir plein partout. Voilà. Je pense qu'ils ont juste naturellement inventé ce truc et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le buzzword, même je vois dans le jeu vidéo, ça rend les gens malades. C'est-à-dire que dès qu'il y a un buzzword qui marche, tout le monde veut être dans l'industrie à cause de ça et sort tout et n'importe quoi parce que c'est le truc qui marche, parce que les financiers vont dire oui et le public.
Mais du coup, quel est le rapport avec
la fibre à l'époque de la locomotive? Il devait y avoir des sacrées conneries qui marchaient à la vapeur. Hein. On va mettre une machine à vapeur pour les volets roulants. Attends, pour les stores. On va foutre des machines à vapeur pour les stores.
Ça, c'est ton délire steampunk. Hein. Je pense qu'il y avait juste la machine à.
Non, je pense que c'était une innovation tellement forte qu'on a voulu
de
le mettre partout.
Ouais. Qui, du coup, est un invertébré total. Hein.
Non, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les buzzwords, ça rend les mecs dingue.
Oui, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça n'a rien à voir avec
ce que veut dire Fibre et rejoint en ça ma chronique et l'intro de Mélissa, c'est que...
C'est pas du gros hacking de chroniqueur en essayant d'intégrer des chroniqueurs à ton chronique qui n'ont rien demandé à personne.
C'est que en fait, c'est pour ça que moi, j'en veux pas, par exemple, à Justin Rosenstein pour l'invention du like, le mec, c'était juste un instrument, c'est la mentalité, c'est le système qui lui a permis de le faire, donc c'est effectivement...
Attends, après l'avoir insulté pendant 25 minutes, l'avoir traité de Boromir, l'avoir traité de Justin Bieber.
Non, il a fait une Boromir, c'est pas grave. On fait tous des Boromir à un moment dans notre vie.
Et après, c'est le système le coupable. Non, mais sérieux.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un écosystème qui lui permet de lui s'en tirer à moindre frais en disant, je fais ce truc-là, mais c'est le milieu qui marche comme ça. Et si moi, je le fais pas, un autre le fera.
C'est comme le mec qui décide de dealer et de vendre de la, du crack. Par exemple, Freddie Gibbs qui dit « Je vends du crack à ma cousine parce que si moi je le fais pas, c'est un autre noir qui va le faire. » Bon, ok. Est-ce que... Ben ça, si, mais c'est ça. Mais le truc, c'est de se dire finalement...
Survie, quoi.
C'est de se dire, pour être absolument présent sur le marché et le protéger, je suis prêt à faire des conneries. Je suis prêt à faire des trucs
mais que comment tu peux dire que le like était une connerie au moment où ils l'ont lancé? Ils ont dit, ben c'est cool, on va pouvoir mettre un like pour dire j'ai aimé ce statut, comme c'était le cas.
Mais parce que si toi, tu crois vraiment que c'est comme ça que ça s'est décidé chez Facebook, à mon avis, c'est toi le naïf dans l'histoire.
Attendez, les likes, c'est super cool.
Qu'est-ce qu'il raconte Justin Machin dans son article? Il le dit pas, ça?
Il dit que c'est l'aliénation. Il dit qu'en fait, c'est un truc qui, en gros, lui, c'était le son point de départ, c'était de dire depuis que ce truc-là est arrivé, donc en gros depuis que je l'ai créé avec mon équipe, eh ben on a une perte d'attention, on perd du QI. Réellement, il a dit, le fait qu'un téléphone soit posé sur la table, même éteint, il y a une partie de ton cerveau qui est quand même focus dessus.
Mais est-ce qu'il dit dans quel état d'esprit il a créé le like?
Ben, ça a été créé en mode rush, à la con, en overnight, poum, le mec, la nuit, il a développé la feature. Après,
oui, c'était, ils l'ont pas affilé, non plus un truc, c'était une des features de Facebook, c'était pas genre l'outil pour faire du gros hacking.
Non, c'était une feature, mais si tu lui avais dit, ben, tu sais, la feature que t'as fait en 2009, parce que c'est en 2009 qu'ils l'ont activé, ben, entre temps, il y a des gens qui, à cause de ça, sont tombés en dépression, voire certains se sont suicidés, etc. Le mec, tu vois le poids que le gars porte, en fait. C'est pour ça que lui se coupe.
Oui, mais là, c'est là, on revient dans ce débat de... Comment tu peux savoir, quand tu innoves et que tu lances des nouveaux produits, de nouvelles choses, comment tu pouvais savoir en lançant des routes que tu allais faire la déforestation de la planète?
Mais il y a des trucs que tu sais. Là, par exemple, pour le lancement des routes et la déforestation de la planète, c'est juste qu'on s'est dit on en a rien à foutre de déforester la planète, c'est différent.
Ah, c'est différent?
Bah, c'est
ou différent. C'est pareil?
Mais il essaie de me driver là-dessus.
Moi, je pense que si tu fais bosser des chercheurs, des psychologues, des anthropologues, des sociologues sur la question... T'as des scénarios.
Voilà.
Tu vois.
Et donc tu peux préparer, tu peux utiliser le scénario le moins pire pour préparer ton
Est-ce qu'une seule personne a compris le poids qu'aurait le like? Que ce soit du côté de Facebook ou même de l'extérieur. Quand tu lançais le like, personne ne savait.
Je pense qu'ils ont fait un truc.
Non, justement.
Est-ce que quelqu'un comprenait le poids que prendrait le SMS dans nos vies, alors qu'à la base, c'était un truc quand t'avais plus de réseau, c'était un dépannage de...
Non, justement, en fait, c'est pas Rosenstein qui en parle, c'est Tristan Harris dans l'autre article qui est lié. C'est que lui, il dit, par design, toutes les applications sont... Il compare les applications de social media à de la cocaïne, à de l'héroïne. Et ça, c'est le design, c'est-à-dire dès le fondement du truc, le but, c'est de faire en sorte de créer une addiction, un rapport d'addiction avec entre
les utilisateurs. Je te pose la question, est-ce que c'est juste propre à la Silicon Valley?
Je sais pas, t'es accro aux routes, toi? Moi, je suis pas accro aux routes, je m'en fous, tu vois, tu me mets un sentier.
Et pour répondre à ta question, qui a compris l'importance du like? On pourrait répondre, Facebook l'a compris, parce que très tôt, le pouce bleu, ça a été, la main bleue avec le pouce levé, ça a été le symbole de Facebook, mais très très tôt. Et je pense que ça a été leur porte-étendard, et ça l'est toujours d'ailleurs.
Ah oui,
d'ailleurs.
Mais c'était pas prévu.
Non, mais ça s'est transformé très rapidement.
Oui, bien sûr, parce que c'est devenu énorme, on est d'accord.
Mais parce que pour moi...
Mais après, le like, c'était une expression démocratique, et l'expression démocratique, elle permet d'élire Marine Le Pen comme votre...
Comme Donald Trump, c'est ça que tu veux dire, par exemple?
Ben, exactement, mais à un moment, après tout, Donald Trump, vous pouvez ne pas l'aimer... Non, mais c'est le résultat d'une expression démocratique, à un moment, il faut respecter les systèmes qui fonctionnent, voilà. Ben oui.
Ah, j'aurais bien aimé voir si on rentre ensuite.
C'est un autre débat.
On atteint le point de Edwin.
Qui veut reprendre une pinte de bière, là? Puisque je vous rappelle qu'on en débat
pour toi. Jean-Michel, c'est la mienne, là. Tu la mets pour tout le monde. Allez.
Vous vous moquez, mais c'est
vrai. Ah non, alors là, on parle du débat, là, en général, depuis tout à l'heure, Philippe.
Oui, bon, ben, c'est pas PMU. Moi, je vais jusqu'au bout de ma démarche.
La France PMU.
C'est la PMU.
Je trouve ça intéressant.
Mais oui, moi aussi.
Mais en fait, je remarque.
On fait un podcast à deux, si tu veux.
On remarque que quand il dit oui, ton esprit, il est pris par le téléphone, le Google Home, c'est un peu la solution.
Bah, c'est sûr.
On s'arrête au Google Home.
C'est sûr que.
Franchement, c'était un pif total de la part de Fibre, mais au moins, ça permet de boucler l'émission. Et de toute façon, on s'est tellement tout permis dans cette dernière année-là qu'on peut finir sur Google Home. Ok, Google. Tu peux éteindre l'émission.
Il m'a pas répondu. Même pas qu'il a pas compris. Ouais. Il t'ignore, en fait.
Là, elle est fatiguée. Vous voulez trop de choquer.
Oh, c'est bide.
Ça se trouve, elle a vraiment éteint...
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'était le numéro d'octobre de Studio 404. Nous avons discuté de Growth Hacker. Nous avons discuté de mecs qui créent le like et qui ensuite dislike le like. Nous avons parlé de la fin du cache et du début de Google Home. Et on s'est bien marré. Hein?
Ouais.
Non. Est-ce qu'on dit aux auditeurs à quelle heure il est ou pas?
Non.
Mais non, mais ça va là.
On dit rien aux auditeurs. On dit rien aux auditeurs.
Ouais, on peut encore prendre des métros.
On est à 4 heures du matin, pour moi, c'est
on ne sait, sait jamais à quelle heure les auditeurs écoutent nos émissions, donc officiellement, nous sommes en plein jour. Bonjour et bienvenue sur Sulu 404. J'espère que vous êtes sur la route.
Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Et alors, il y a un chassé croisé au niveau de la 8.
Oui. Alors, déjà, je vous remercie. On remercie Ghislain de nous accueillir chez lui ce soir.
Merci Ghislain.
On était bien chaud. On a tout notre matériel.
Oui.
Nous enregistrons 100% en autonome.
C'est grâce à vous, les Patreons.
Bravo. C'est grâce à vous, les Patreons. C'est grâce à vous, les gens qui avaient acheté des matelas Casper.
Bravo.
Et oui.
Continuez. Si vous n'avez qu'un, un deuxième, ça sera pas mal.
Achetez un deuxième matelas. Stackez-les. Démerdez-vous. Mais il nous faut encore du matos. Évidemment, vous retrouvez tous les débats sur le forum. Évidemment, nous avons un événement qui va arriver au mois de novembre. C'est la seconde édition du camp. Nous partons à la montagne. Donc, tous les renseignements sur Twitter, sur Facebook, sur notre forum. Nous avons aussi plein d'autres podcasts. Nous avons Trajectoire. Nous avons C'est Cool, C'est Quoi. Nous avons Le Log. Nous avons Californie. Non, je déconne.
Si.
Non,
si,
non, on n'a pas Californie. Si. On l'aura jamais.
Il est dans
on
le cerveau de Daz.
On l'aura jamais.
On l'aura.
Nous n'aurons pas de podcast sur la bouffe aussi, puisque Mélissa part.
Mais je reste dans 404.
Pourtant, il y aura un podcast sur la bouffe, mais pas chez nous, quoi.
Pourtant, Daz avait un super nom.
Ouais, on peut du coup donner le nom.
Méliverou et Food Nora.
C'est quoi, Daz?
Voilà, parce que Mélissa comptait faire avec une amie à elle qui s'appelle Nora, et Méliverou et Food Nora, j'avais trouvé.
Il faut reconnaître que le nom était vraiment magnifique.
C'est quoi, Daz? Fais Méliverou et Food Nora, mais genre, tu fais la bouffe de chez toi, tu vois. La bouffe, c'est quoi? Comment il s'appelle le truc en face de chez toi? Le roi du poulet?
Le poulailler! Ah, meilleur kebab du 9-4.
Franchement, on est passé devant il y a 10 jours, il fait peur. On va pas se mentir, Daz.
Ça, tu as tort, il est parfaitement.
Non, mais Daz, c'est comme la cuisine de notre maman, c'est la meilleure du monde, mais après, on n'est pas objectif.
Non, franchement, il récure à fond son truc, je te jure. Ah bon. Non, il y a tous les certificats de l'hygiène et tout, machin, non, il déconne pas.
Moi aussi je peux en faire, hein. Ça c'est pas Photoshop. Nous accueillons en tout cas aussi des nouvelles personnes à bord, puisque vous connaissez déjà Quentin, qui aide Ghislain à réaliser des émissions, qui en réalise déjà pas mal. Et nous accueillons avec nous Sam, qui va nous aider enfin à produire, à être plus carré, à mieux gérer nos doodles, à bien puber nos émissions, à organiser nos événements, bref, à faire tout plein de choses.
Bonjour Sam.
Bonjour Sam. Attends, je passe le micro à Sam.
Et merci Sam.
Alors,
bonsoir.
Au moment où Sam a prononcé, où Lam a prononcé le nom de Sam, les lumières se sont éteintes chez Ghislain. C'est bizarre.
C'est Angie qui nous met dehors.
Je pense qu'Angie, c'est un peu le patron du bar qui dit les ivrognes là.
Normalement, tu rallumes les lumières.
Vous allez dehors. En tout cas, voilà, vous aurez l'occasion de voir Sam, peut-être d'entendre Sam, mais de la voir plus souvent sur le forum. Elle va nous aider à passer à la vitesse supérieure et peut-être que dans un ou deux ans, on rachètera l'entreprise de Mélissa.
Et de Charlotte.
J'ai hâte.
Pudlowski.
Toi aussi, tu fais des bruits de bouche. Là,
ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ce soir qu'il faisait des bruits de bouche aussi. Ouais.
Quand c'est par régulation. 12 minutes, forcément.
C'est pour ça que Ghislain nous a demandé de tous aller boire de l'eau à un moment.
Oui, voilà. Tout à fait. On a fait le tour ou pas, du coup? Oui, et n'oublie pas le Patreon, évidemment.
Et quoi d'autre attendre? Donc Casper, ok, ça me s'est fait, Quentin pareil.
Patreon.com/qualité avec un R s'il vous plaît. Il y a plusieurs récompenses. N'ayez pas peur si vous avez acheté un t-shirt et qu'il n'est pas arrivé. Il arrive, c'est Sam qui s'en occupe.
Ah non, oui, c'est vrai. Oui. Et Sam va nous délivrer aussi de notre inaptitude à gérer
les goodies.
Et pour les nouveaux, vous pouvez venir nous voir sur le forum, forum.dequalité.com et sur le Discord. Et sur Twitter et sur Facebook.
Pour le forum, ça dépend si Sylvain n'a pas fumé notre nom.
C'est bon.
Parce que Sylvain faisait des tests tout à l'heure. Voilà.
Et vous pourrez évidemment commenter cette émission et débattre chaque sujet sur le forum. J'attends impatiemment celui autour de Daz. Merci beaucoup d'avoir, en tout cas, écouté cette émission de 404. On se retrouve, nous, le mois prochain. Ciao, bye bye tout le monde.
Ciao. Bisous.